Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Excellent Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur parce qu'en veille comme tout, nous avons la grâce de démarrer encore cette formation. Merci Seigneur parce que comme toutes les fois, comme chaque fois, tu es avec nous et que tu nous donnes de continuer encore ce processus d'apprentissage, ce processus de combat contre l'ignorance dans le domaine de la sagesse comme par hasard. Qu'il te plaise Seigneur d'être avec nous ce soir. Que ton Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous guide, qu'il prenne le devant de toutes choses. Parle-nous Seigneur ce soir, touche quelqu'un, dis à quelqu'un ce dont il a besoin même si nous ne le savons pas Seigneur. Prédispose nos cœurs. Sois le premier ici, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Et fais de nous des personnes capables de t'entendre, de te comprendre et de mettre en application ce qu'elles ont entendu pour porter des fruits à ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que, comme toujours, tu nous fais des choses extraordinaires. Tu nous as rachetés, tu nous bénis selon ta richesse et ta gloire. Tu veilles sur nous, tu ne sommeilles pas, tu ne veilles pas. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, 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 infiniment merci. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes là dans la suite du séminaire qu'on a commencé la semaine dernière sur justement la sagesse. On avait planté un peu le décor de la sagesse la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur où nous allons faire un peu plus de cas pratiques. Nous allons prendre quelques versets bibliques et nous allons ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'ils contiennent ou qu'est-ce qu'ils nous apprennent d'essentiel sur la sagesse. Parce que nous l'avons bien vu la semaine dernière, la sagesse est l'accroissement de vos connaissances sur les choses essentielles. Matériel, les choses du monde, les choses que sont l'homme, et spirituel, les choses qui ont rapport à Dieu. Nous avons vu que cette connaissance en termes de sagesse doit être quantitative, il faut en savoir beaucoup, mais surtout qualitative. Il faut savoir la vérité. Et nous avons rappelé qu'il n'y a pas de vérité. On ne peut pas s'amuser avec les thèses, antithèses et synthèses à n'en plus finir. La vérité est une. Quand on ne connaît pas la vérité, on dit qu'on ne la connaît pas, on la cherche et on la trouve là où elle est. Et là où il y a la vérité sur l'humanité, là où il y a la vérité sur l'homme, c'est bel et bien dans la parole de Dieu, Dieu étant le fabricant, c'est lui qui peut signer un manuel de fabrication. Une chose fabriquée ne peut pas signer un mode d'emploi. Il faut au fabricant pour signer un mode d'emploi. Quand on fait un médicament, c'est son fabricant et personne d'autre qui a le droit de dire comment on doit l'utiliser. Quand on fait une machine, c'est son fabricant et personne d'autre qui a le droit de dire comment on doit l'utiliser. Eh bien, en matière d'homme, je ne sais pas si quelqu'un d'autre que Dieu a fabriqué les hommes, mais jusqu'à ce qu'on me démontre que quelqu'un d'autre que Dieu fabrique les hommes, il faut laisser à Dieu le privilège de fixer le mode d'emploi. Si le monde va mal, c'est parce que les hommes veulent vivre comme ils veulent, veulent imaginer les règles de fonctionnement d'un monde qu'ils n'ont pas créé, qu'ils n'ont même pas fini de comprendre. Comment on peut décider comment va bien fonctionner quelque chose qu'on n'a pas compris? Vous imaginez qu'un mécanicien essaie de réparer une voiture dont il ne comprend rien? D'ailleurs, comme ils le font, il faut comprendre comment les choses marchent avant d'essayer de les réparer. Les hommes n'ont même pas fini de comprendre comment le monde marche. La preuve, tous les jours, ils font des découvertes. Et ils prétendent savoir mieux que le fabricant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Il ne faut quand même pas se foutre du monde.
Mais ce que nous faisons, nous nous moquons de Dieu et nous nous moquons de nous-mêmes. Conclusion, tous les jours et de mieux en mieux ou de pire en pire, tout va mal. Les meilleurs systèmes économiques sont en train de s'écrouler. Les meilleurs systèmes politiques, il n'y a jamais eu autant de dictatures que depuis que nous sommes en démocratie. Et jamais les droits de l'homme n'ont été aussi bafoués que depuis qu'on parle des droits de l'homme. La réalité, c'est que les droits de l'homme ne peuvent pas sauver l'homme. Ce qui sauvera l'homme, c'est les devoirs de l'homme à Dieu et c'est les droits de Dieu. Aucun homme ne va bien traiter un autre parce que l'autre a des droits. Mais un homme qui craint Dieu traitera bien les autres. Le problème, c'est que l'homme a tout mis à l'envers, veut fabriquer les règles qui lui plaisent, et bien que tout lui indique tous les jours que ça ne marche pas, il dit, bon, ça ne marche pas, juste pour un petit détail, ça finira par marcher. Franchement, moi, je ne suis pas vieux, j'ai 34 ans, mais depuis que je suis né, tout ce qu'ils ont dit que ça va finir par marcher ne marche pas. Et il paraît que c'était comme ça avant que je ne laisse. Il faut qu'on arrête de perdre du temps. Et donc, être sage, c'est avoir la grâce de découvrir, de maîtriser, de comprendre, d'appliquer la vérité. Quand vous comprenez cette vérité, quand votre mode d'emploi, quand votre mode de fonctionnement, quand votre intelligence est renouvelée selon cette vérité, il est évident que vous porterez des fruits. Quand on vous voit, même on est impressionné. On dit, mais comment tu fais? Où ça te vient cette idée? Comment tu fais pour être courageux comme ça? Comment tu fais pour ne pas t'inquiéter? Comment tu fais pour rester calme? Comment tu fais pour ne pas être stressé quand tout le monde est stressé? Comment toi tu fais pour t'en sortir? La réponse à tous ces commandes est unique. Vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la sagesse. Vous avez découvert la vérité. Et je répète, cette vérité là n'existe que dans la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Avant que je ne prenne quelques... On va prendre pêle-mêle des versets bibliques, des éléments de sagesse particuliers qu'on va essayer d'approfondir, de comprendre. Alors, des questions par rapport à ce qu'on a vu jusque-là? Oui, allez-y.
Je voulais demander, est-ce que durant toute une vie d'un être humain sur cette terre, est-ce que cette personne-là peut acquérir toute la sagesse de Dieu?
Alors, par définition, et d'ailleurs, la sagesse vous permettra de le savoir, à Dieu les choses cachées et aux hommes les choses révélées. Dieu sait tout, puisque c'est lui qui a tout fait, mais Dieu décide dans sa souveraineté à qui il fait savoir quoi et quand. Bien entendu, on l'a déjà vu ici, il y a une coproduction entre Dieu et vous. Si Dieu ne veut pas vous donner la sagesse, vous pouvez lire matin, midi et soir la Bible, vous ne la comprendrez jamais, vous n'en comprendrez jamais rien. On dit que pour bien lire la Bible, il faut y être aidé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je crois que oui. Et à un moment, quand vous ne connaissez rien à Dieu, vous prenez la Bible, vous ne pouvez même pas lire une page sans vous endormir. Tellement c'est ennuyeux. Vous dites, mais comment les gens font pour lire ça tout le temps? Mais quand le Saint-Esprit est en vous, vous lisez une phrase, c'est tellement intéressant, vous pouvez réfléchir à cette phrase pendant des semaines, vous n'avez pas fini. À plus forte raison, un livre entier ou la Bible. D'accord? Quand par exemple, on me dit, quelqu'un a pris un mois, il a lu la Bible du début à la fin, il n'a rien lu. C'est impossible de lire la Bible à ce rythme-là, à moins d'être en train de faire de la lecture académique. Mais si vous voulez comprendre ce que vous lisez, dans la Bible, il y a deux choses. Le logo, c'est le rhéma. Le logo, c'est les mots, c'est les phrases, c'est ce que ça dit. Dieu est grand, ça veut dire que Dieu est grand, ça veut dire qu'il a de la hauteur, ça veut dire qu'il est fort. Ça, c'est tout ce que ça veut dire en logos. Mais en rhéma, ça veut dire beaucoup de choses. Ah, quand on parle de rhéma, c'est que Dieu utilise une parole de la Bible pour vous parler personnellement. Supposons par exemple vous êtes dans une situation où vous êtes écrasé par vos ennemis, par vos persécuteurs, par les méchants, par la dette. Vous avez toujours lu Dieu est grand. Mais ce jour-là, quand vous lisez Dieu est grand, le Saint-Esprit commence à vous dire, mais Dieu est grand pendant qu'on y est. Telle personne dont tu as peur là, si je veux, il ne peut pas mourir tout de suite. Et si je le rendais malade tout de suite, il va te fatiguer. Et si je faisais ci? D'ailleurs, Dieu peut commencer à vous donner dans votre propre vie, vous montrer comment il est grand financièrement, donc votre problème ne peut pas le dépasser. Il est grand en termes de santé, même si un homme ne peut pas vous soigner, il peut vous soigner. C'est-à-dire, ce que vous n'avez jamais pensé, le Saint-Esprit utilise une phrase et commence à vous illustrer par rapport à votre propre vie. Ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène spirituel qui fait que subitement, vous qui un instant avant étiez paniqué, Dieu vous donne non pas l'audition de Dieu est grand, mais il vous donne la révélation de ce que ça veut dire aujourd'hui Dieu est grand. Vous-même, vous ne saurez pas comment, mais vous n'aurez plus peur, vous ne serez plus inquiet, vous allez sentir une force extraordinaire parce que ce n'est pas seulement Dieu est grand, les trois mots que vous avez entendus. C'est l'Esprit de Dieu qui prononce ces trois mots, fait un miracle dans votre vie. Les miracles ne sont pas qu'en termes de guérison, mon bras avait mal, il n'est plus malade, mon pied était paralysé. C'est en termes aussi de réveil de votre esprit. C'est en termes de force, c'est en termes de paix, c'est en termes de ce que vous êtes capable de faire ou n'êtes pas capable de faire. Vous me suivez? Et ça vient par le rhéma. Donc, vu tout cela, Même si vous connaissez chaque mot de la Bible par cœur, je connais des gens qui connaissent quasiment, je ne sais pas s'ils font comme les musulmans, ils ont récité, ils sont capables de vous réciter la Bible verset par verset comme les autres récitent, sourate par sourate. Mais ce n'est pas généralement ceux qui comprennent le mieux la Bible. Il y a des gens qui ont la grâce de comprendre la Bible et de la retenir aussi. Mais ils ne sont pas nombreux. La plupart des gens qui vous citent les moindres virgules de la Bible ne comprennent pas grand-chose à ce qu'ils citent. Parce que le tout n'est pas de bûcher la Bible, c'est de recevoir la révélation de ce que Dieu est en train de dire. Et ces révélations sont illimitées. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle peut, une phrase peut vous dire quelque chose aujourd'hui. Et demain, la même phrase décide, parce que c'est un esprit vivant qui vous parle, de vous dire autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on retient que la parole de Dieu est vivante, par quelle magie la parole de Dieu pourrait-elle finir de vous parler? Si mon père est vivant, comment il peut finir de me parler? À moins d'être mort. Pour croire qu'on peut finir d'accumuler la sagesse, il faut croire d'abord qu'on peut être équivalent de Dieu. Parce que Dieu a tout fondé par sa sagesse. Pour acquérir toute la sagesse, il faut comprendre tout ce que Dieu a fait. Ça m'étonnerait que vous ayez le temps de faire. C'est impossible, c'est évidemment impossible d'acquérir tout ce qu'il y a à connaître comme sagesse. Tout ce que l'homme peut faire, c'est d'accroître son niveau de sagesse. C'est de tendre vers la perfection en matière de sagesse. C'est d'être de plus en plus en intimité avec la sagesse de Dieu, afin de pouvoir fonctionner comme Dieu fonctionne. Mais je pense que c'est prétentieux d'oser même espérer qu'on pourrait finir d'acquérir la sagesse. Ce serait vraiment posséder Dieu lui-même. Parce que Dieu est sagesse.
J'ai une autre question.
Oui.
Maintenant, par rapport au Réma.
Oui.
Est-ce que le Réma peut s'adresser à quelqu'un sans que cette personne ne soit dans une situation donnée à expérimenter cette parole-là, ce Réma-là qui lui est adressé?
Le Réma, ce n'est rien d'autre que Dieu qui vous parle. Mais en utilisant comme vecteur une parole de la Bible. C'est-à-dire que, ne voulant pas ouvrir la bouche pour parler à vos oreilles, Dieu utilise quelque chose que vous lisez pour vous glisser, pour faire surfer, pour faire couler sur les phrases que vous avez lues, un message qu'il veut vous passer. Donc, le réma, c'est quand des idées ou des compréhensions profondes, précises et puissantes d'une phrase bête que vous avez lue vous sont données par Dieu. Quand on dit par exemple, et nous sommes là dans la sagesse, à la croix, Dieu s'est fait pauvre pour que vous ne soyez plus jamais pauvre. D'accord? Quand on dit par exemple qu'à la croix, Dieu s'est fait pauvre pour que vous ne soyez plus jamais pauvre. Ça a l'air simple, mais ça veut dire plein de choses. D'abord, c'est à la croix que Dieu nous a acquis, ou Jésus nous a acquis la grâce. Le pardon des péchés, la capacité de ressusciter, l'accès au paradis, en se chargeant de nos péchés. Et personne ne doute de ce que, parce qu'il s'est chargé de nos péchés, la question du péché est définitivement réglée. À moins de ne pas être un chrétien, c'est la première chose à laquelle on croit pour donner sa vie à Jésus. On croit qu'il nous a racheté du péché. Or, la Bible, donc Dieu nous dit que à la croix, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de notre pauvreté, il s'est chargé de nos infirmités, il s'est chargé de nos malédictions. Cela veut dire, si vous en recevez la révélation, que de la même manière, avec la même puissance et la même perfection, que le péché est définitivement chaos, la pauvreté est définitivement chaos. Ce n'est pas quelque chose à conjuguer au futur. C'est quelque chose d'acquis, d'accompli parmi les tout là dans le passé. La maladie n'est pas quelque chose qui doit être vaincu. Vous n'avez pas à guérir. Jésus vous a normalement rendu incapable d'être malade. Et si vous comprenez la révélation de cette phrase-là, vous saurez qu'il est bête de croire que Jésus a la croix réglé la question du péché, tout en doutant qu'il ait réglé la question de la maladie. Puisque c'est exactement la même chose. C'est pas le même mécanisme, au même moment, dans le même processus, qu'il a vaincu le péché, la maladie, la mort et tout le reste. Vous croyez qu'il a vaincu la mort, vous croyez qu'il a vaincu le péché, et vous doutez qu'il a vaincu la pauvreté. Vous doutez qu'il a vaincu la maladie. Vous doutez qu'il a vaincu les handicaps. Quand on dit handicap, vous voyez tout de suite un pied paralysé. Mais les vrais handicaps, ce n'est pas ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont paralysés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aveugles. Mais il y a beaucoup de gens qui sont handicapés. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas convaincre. Ils ne peuvent pas séduire. Ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Ils ne peuvent pas réaliser leurs projets. Ils ne peuvent pas s'épanouir. Ils ne peuvent pas être heureux dans leur couple. Ils n'ont pas la paix. C'est des handicaps. Handicap, ça veut dire limitation. Un brin handicapé qui ne peut pas bouger. Mais votre vie est souvent handicapée. Votre cœur est handicapé. Nous sommes tous handicapés. Chaque fois que vous atteignez votre limite, vous êtes handicapé. Vous êtes arrêté. Vous êtes bloqué, vous êtes paralysé. Les vrais handicaps ne sont pas les handicaps visibles. C'est ces nombreux handicaps invisibles qui paralysent nos vies et nous empêchent de faire ce que nous voulons faire.
Si ce que nous voulons faire n'est jamais ce que nous faisons, c'est parce que nous sommes handicapés. L'handicapé, c'est quoi? Il veut marcher, il ne peut pas marcher parce que son pied ne bouge pas. Il veut voir, il ne peut pas voir parce que son œil est fermé. C'est pareil. Vous voulez être riche, vous ne pouvez pas, parce que ça n'arrive pas. Vous êtes handicapé en termes de prospérité. Mais combien de personnes ont compris ça dans cette petite phrase? Et si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas avoir la foi que vous êtes sauvé pour le paradis et douter que vous soyez déjà riche. Et douter que vous soyez fait pour être heureux en termes de santé. Et comprendre en conséquence que la seule chose qui vous empêche de voir la manifestation de ces acquis, c'est la foi. La foi, au-delà d'être la ferme assurance de ce qu'on espère, et ce qu'on espère de la parole de Dieu, oui, c'est pas ce qu'on espère comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on espère, chose qu'on espère parce qu'on les a entendues et on sait que c'est le sceau de Dieu. Première chose. Deuxième chose, c'est la démonstration de ce qu'on attend. La démonstration. Beaucoup de gens n'ont pas la foi qu'il faut pour démontrer ce qui leur est acquis. Si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus et de devenir des chrétiens, vous avez ainsi démontré que vous croyez qu'il a vaincu le péché qui vous a racheté et que vous pouvez maintenant servir Dieu en toute quiétude. Sans cette foi-là, vous ne pourriez pas le démontrer en devenant chrétien. Mais le problème, c'est que vous avez eu, par la grâce du Saint-Esprit, la capacité de démontrer votre foi dans le miracle de la croix, côté péché, en devenant chrétien. Et comme par hasard, vous refusez d'avoir la même foi pour vaincre la maladie, pour vaincre la pauvreté, pour vaincre vos limitations. Parce que vous n'avez peut-être jamais réalisé que c'est exactement la même chose. Et qu'il s'est occupé de tout cela à la fois. Et à partir du moment où il s'est chargé de tout ça, qu'il a amené tout ça dans la tombe, il n'y a plus normalement de place pour rien de tout cela sur ceux dans lesquels il s'est incarné. Vous croyez que Christ va subir la même chose deux fois? Non, il ne peut pas resubir ce qu'il a vaincu. Or, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes le temple de Christ. Christ est en vous. Pour que vous puissiez être à nouveau malade, il faudrait que la maladie qu'il a déjà vaincue à la croix revienne encore narguer Jésus. Ce n'est pas possible. Mais comme il nous en est toujours fait selon notre foi, comme je le démontre toujours, je peux mettre 1 milliard dans un compte bancaire. Je te donne un chèque d'1 milliard. Si tu crois que c'est trop beau pour être vrai, tu n'iras jamais faire la queue à la banque pour toucher ton milliard. Adios. Guy Bité, il y a 1 milliard. Mais blague, lequel est? C'est même pas la peine d'aller perdre ton temps à la banque. Pas les temps qui courent. Ouais, mais qui dit, là, c'est mon nom. Vous avez mon nom. Guy Bité, 1 milliard, il est secours de foi. Même s'il y a 1 milliard sur mon compte et que je te le donne, dès que tu commences à raisonner comme ça, comme les gens qui devaient aller à la terre pour mille, ils ont dit, oh, il y a trop de gens, là, on peut jamais y arriver. Faut pas que Dieu ne perde du temps. Dès que vous commencez, parce que vous regardez la réalité, les épreuves, les difficultés, les murs de Jéricho, à douter de ce que celui qui vous a dit, va, je vais faire tomber le mur. Quand vous commencez à dire, il ne faut pas que lui me perde du temps, un mur de 10 mètres d'épaisseur qui entoure une grande ville comme ça, un mur de me faire tuer par des gens de 3 mètres. Restez ici, il vaut mieux. S'il ne peut pas nous trouver un autre chemin, il n'a qu'à nous laisser retourner en Égypte. C'est ça. Je te donne un chèque d'1 milliard. Tu commences à dire, pas les temps que vous qui donne 1 milliard à quelqu'un. Toi, ton vieux est gagnant. Et vous commencez à niaiser comme ça. Vous aurez le chèque en main, mais c'est comme si vous n'aviez rien reçu. Vous allez mourir pauvre alors que vous avez 1 milliard. Il vous suffirait d'aller à la banque pour le toucher. C'est pareil avec la foi. À la croix, Dieu vous a signé un chèque. Maladie, zéro à vie. Santé, parfaite. Pas d'handicap, pas de limitation, pas de douleur. Et vos péchés sont pardonnés. Vous décidez que c'est trop beaucoup être vrai. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Moi, je préfère parler avec mon médecin. Il ne faut pas rester là niaiser. Moi, je préfère considérer que rien n'est aussi beau que ça dans la vie. Quand mes problèmes viendront, j'appellerai le diable pour voir comment il peut m'aider. Vous décidez par une série de raisonnements idiots de mépriser ce que je vais faire à la croix et de jeter son chèque par terre en disant, le jour où je n'aurai rien à faire, je vais aller voir du côté de la banque ce qu'il m'a donné. Mais en attendant, dites-moi des choses sérieuses. Si vous n'avez pas touché le chèque, ce n'est pas la faute de Dieu. Il a mis l'argent sur le compte, il vous a donné le chèque. La signature, c'est au nom de Jésus. C'est votre problème si vous vous en foutez. Dieu ne... C'est pour ça qu'il y a certaines prières qui sont, excusez-moi, idiotes. Je te donne 1 milliard. Tu te moques de moi comme je viens de le dire, tu refuses d'aller à la banque. Je te croise le lendemain, je dis, ah, petit, ça va? Oui, mais donne-moi 10 000. Je dis, mais ça va chez toi? Il dit, mais non, donne-moi 10 000 seulement, je veux 10 000. Je dis, mais je t'ai donné 1 milliard hier, non? Non, il ne faut pas me blaguer là, je veux pas sérieux. J'ai demandé 10 000 seulement. Et ça, vous allez me dire, non? Et donc, reste là. Vous allez croire que je blague. Dieu vous a donné, il dit, il vous bénit selon sa richesse et sa gloire. Il dit que quel que soit ce que vous imaginez, là, on est au cœur de la sagesse. La Bible dit, quand Dieu veut vous bénir, il fait des choses qui ne sont jamais montées à votre cœur, jamais montées dans vos pensées. C'est-à-dire, vous pouvez rêver, imaginer le plus grand, quand Dieu agira, il vous surprendra encore. Parce que par définition, il est plus grand que vous, il sera toujours plus grand que vous. Celui qui dit tout ça, vous mettez tout ce qu'il dit là comme bavardage, Et vous venez voir pour dire, c'est pas de ça que je te parle, Dieu, là. Moi, je dis que j'ai besoin du salaire d'aujourd'hui. Tu me parles de que tu m'as déjà béni selon ma richesse. Laisse ça, Seigneur. Moi, je veux d'abord les 30 000 de ce mois-là. Donne-moi 30 000. Il a dit, mais ces petits-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est pour ça qu'on dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas mépriser ce qu'il a déjà accompli et avoir le culot, le toupet, l'imbécilité de vous tenir devant lui pour redemander ce qu'il a déjà fait 1000 fois. Arrêtez de perdre du temps à Dieu. Si vous ne croyez pas ce qu'il a déjà fait, il a dit. Pourquoi vous le fatiguez à demander qu'il parle encore? C'est pour ça que les gens sont chrétiens pendant 100 ans. Ils meurent pauvres. On dit, mais il est chrétien, des cagnonniers. Hein. C'est pas ça qu'un chrétien. Jésus a dit, ils vont venir à l'église, ils vont faire des miracles à mon nom. Ce jour-là, je dirais que je ne les connais pas. C'est pas venir à l'église que d'être chrétien. C'est pas se baptiser que d'être chrétien. C'est pas prendre la sainte scène que d'être chrétien. C'est pas parler en langue que d'être chrétien. C'est des choses que les chrétiens ont. Mais tous ceux qui les ont ne sont pas chrétiens. Au sens de Jésus. Être chrétien, c'est croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Prenons simplement cette phrase. Sauveur, ça veut dire quoi? Il vous sauve. Il vous enlève des problèmes. Il règle vos problèmes. Vous dites que le gars est sauveur. Vous dites que vous croyez qu'il est sauveur. Et vous avez un problème, vous avez peur. Tu peux être dans l'eau, il va avoir un maître nageur sauveur, tu vas avoir peur de te noyer. Ou tu ne crois pas, tu n'as pas vu qu'il est là. Ou tu doutes de ses capacités. Tu ne peux pas croire que Dieu n'est pas là, à moins d'être un imbécile. Et tu ne peux pas douter de ses capacités. Si tu sais qu'il est sauveur, si je confesse que Jésus est sauveur, sauveur, pourquoi tu as peur quand il y a des problèmes? Pourquoi? Parce qu'il dort peut-être. Dieu ne dort pas, hein, vous savez ça, non? Vous savez comment que Dieu ne dort pas? Il ne dort pas et il est là tout le temps en permanence. Comme je l'ai déjà dit ici, quand on dit Dieu partout, les gens croient que c'est bizarre. Parce qu'ils voient Dieu comme une personne assise quelque part sur son fauteuil. Donc, ils disent, mais comment il peut être là-bas ici en même temps? Mais Dieu est comme, il est un esprit. Et comme il le dit lui-même, il dit, quand vous avez le Saint-Esprit, nul ne sait d'où il vient, où il va, mais il est partout. Il a comparé au vent. Dieu nous compare le Saint-Esprit au vent. Il dit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on ne sait pas d'où il vient, on sait où il va. On voit juste ses effets. Mais le vent est partout. Le vent que nous respirons ici, c'est le même qui est celui qui est à Parakou, qui est à Ratitingou, qui est à Savalou, qui est à Paris, c'est le même vent, non? Le fait que je souffre beaucoup plus de vent ici que je suis dans mon climatiseur, ça réduit la capacité du vent à mettre sous la main aux États-Unis ou à donner chaud pendant que moi j'ai froid ici à quelqu'un à Ratitingou? Le même Dieu, il souffle chaud ici, il souffle froid là, il tabasse celui-là, il écrase celui-là, il embellit celui-là, il enrichit celui-là. Oui, il est partout. Vous baignez dans Dieu, dans votre WC Dieu est là, dans votre douche Dieu est là, dans votre voiture Dieu est là. Alors, si vous savez tout ça et vous dites il est sauveur, votre sauveur est là. Pourquoi on a peur? Est-ce qu'on peut avoir le champion des sauveurs à côté de soi et crier au secours au monde? Tu es dans l'eau, à la plage. Le champion des maîtres nageurs est à côté de toi. Tu bois une goutte d'eau. Au lieu de l'appeler, tu commences à crier. Et oh là, vous qui êtes au bord de l'eau là-bas, là, venez me sauver. Ah, dis, mais ce type n'a pas vu qui est à côté de lui. Ou bien, c'est ça ou c'est pas ça? Quand vous êtes chrétien, vous allez voir les païens. Ah, Ocho, les temps sont durs. Comment je vais faire maintenant? Je suis malade. Je n'ai pas d'argent. Et puis si, vous faites exactement la même chose. Vous dites aux gens que vous êtes le fils ou le père du maître nageur le plus fort de la ville, qu'il habite avec vous, qu'il est là, on le voit là. Et dès que vous avez un problème qui relève de sa compétence, vous commencez à appeler les païens pour vous plaindre. C'est la meilleure manière de dire que celui que vous appelez maître nageur là, on dit si lui-même son frère ou bien son ami ou son fils là, le voit là, il crie au secours. Si vous le suivez, c'est un peu pour vous. Vous devenez une pierre d'achoppement pour les gens. Mais quand on vous voit, on sait que vous avez Jésus en vous. Quels que soient vos problèmes, votre réaction dans les problèmes doit déjà démontrer aux gens que le calme que ce petit a là, il doit compter sur quelque chose pour être comme ça. Vos réactions dans les épreuves font partie des plus beaux témoignages, des plus beaux sacrifices que vous pouvez donner à Dieu. C'est eux qui glorifient Dieu. On dit Jésus est sauveur. Une phrase apparemment bête, trop beau dans la Bible. Mais si on va parler de sauveur, tu es dans ton couple, tu n'as pas d'enfant, tout le monde se moque de toi. Jésus ne peut pas te sauver pour ça. On dit c'est le sauveur. Lui ne peut pas te sauver de ça là. Et il y a même des fois, des gens, des problèmes. Je leur dis, mais Dieu va faire dire, oh, la guerre ne me paie pas le temps là. Moi, on tient one for moi. Hein. Donne-moi des solutions concrètes. Ça là, ça ne dépend pas de Dieu. Je dis, mais ce qui est trop compliqué pour Dieu là, dis-moi, qui est plus fort que Dieu qui va le faire pour toi? Entre nous là, soyons sérieux. Quand vous estimez que quelque chose a dépassé le niveau de Dieu là, c'est pour le confier à qui? Ou bien vous dites que c'est le problème compliqué qu'on amène à Dieu. Mais qui vous a dit ça? Invoquez-moi, je vous répondrai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. J'ai le regard sur vous. Mon bâton, ma roulette vous protège. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis là. Dans les eaux, je suis avec vous. Dans les feux, je suis avec vous. Dans la cage au lion, je suis avec vous. Vous dormez, je vous protège. Vous tombez dans la fille de la douleur, je vous relève. Ils forgeront des armes contre vous, mais ça ne marchera pas. Ils t'attaquent, je les fais fuir par cette chemin. Reste calme et fais-moi confiance. C'est ce qu'il dit. Il dit, invoque, moi je te répondrai. Il va jusqu'à dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez que je vous donne et que votre joie soit complète. Il y a des gens qui pensent que Dieu est un pneu secours ou bien un sapeur-pompier qu'on appelle que quand il y a le feu. Non, Dieu n'est pas un sapeur-pompier qu'on appelle quand il y a le feu. Il veut être notre garde-corps, notre ami intime, notre chauffeur, notre collaborateur, notre femme, notre ami, notre enfant, notre père, notre mère. Il veut qu'on l'appelle pour tout et rien. Seigneur, il faut aller me chercher. L'argent qui est dans la poche de ce gars-là, il est riche, il a besoin de ça aujourd'hui. Va me le chercher. Seigneur, bloque-moi telle porte. Seigneur, neutralise-moi tel ennemi. Il est là, c'est votre homme de main. Même si en réalité, c'est votre Dieu. Dieu veut que vous l'utilisiez, ou plutôt que vous l'invoquiez, que vous le laissez gérer tout. Parce qu'il est là, dans sa puissance, et il a une légion d'anges qui sont là, n'ayant rien d'autre à faire que de vous servir. Et il est obligé de constater, il dit, mais pourquoi vous ne demandez pas? Demandez pour que votre joie soit complète. Vous imaginez? Quand Dieu est obligé de dire, mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous allez dire, oui, mais je demande. Mais vous ne lui demandez que quand c'est trop tard. Vous voulez faire quelque chose? Vous faites comme vous voulez. Votre stratégie, vos objectifs, vos méthodes, votre timing. C'est quand ça a échoué complètement et que vous êtes au mur, que vous venez dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, non. Fallait me demander déjà s'il faut prendre ce chemin. Fallait me demander quel jour le prendre. Fallait me demander comment le prendre. Fallait me demander s'il fallait y aller à pied ou en voiture ou en moto. Fallait me demander quoi prendre en chemin. Fallait me demander de baliser le chemin, de le déblayer. Fallait me demander de te prévenir d'avance. Fallait me demander beaucoup de choses que je te dois donner. Tu ne m'as rien demandé. Quand maintenant tu as attrapé en train de te gifler, tu dis Seigneur, Seigneur. C'est ça que ça veut dire, cette petite phrase. Vous ne recevez rien parce que vous ne demandez rien. Vous commencez à faire un travail, vous ne comprenez rien. Vous pleurez. Seigneur, tu es la sagesse. Tu dis que si quelqu'un a besoin de sagesse, que tu la demandes. Fais-moi comprendre cette affaire-là. C'est pas que vous avez des soucis, vous dites ça en rien parce que vous êtes sûr qu'il va répondre, il répond. Vous commencez votre journée. Je vois les gens dire, vraiment la journée là va être dure. C'est une journée avec plein de problèmes. J'ai trop de problèmes aujourd'hui. Il faut arrêter de prendre votre bouche pour décréter des problèmes sur votre vie. Parce que la sagesse, c'est aussi de savoir que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même vous allez voir, même les païens, si vous êtes auprès d'un vieux qui connaît un peu les choses spirituelles, vous parlez n'importe comment, il vous reprend tout de suite. Et nous dormons. Vous dites, non, c'est juste une blague qui dit nous dormons. En combat, Milofio. Même les païens savent ça, le pouvoir de la langue. Tu vas voir, tu vas mourir. Mais si Satan attendait déjà de vous faire mourir, il récupère ça, il le met dans le catalyseur, c'est fini. Parce que parler, c'est décréter quelque chose. Si les conditions spirituelles sont réunies, la chose s'accomplit. Il y a par exemple des gens, et nous oublions ça souvent quand nous avons des problèmes, qui aujourd'hui ne récoltent que ce qu'ils ont dit dans leur vie, à la différence qu'ils oublient qu'ils l'ont dit. Vous voyez par exemple des gens qui disent, bon, alors tu fais quoi? Bon, j'ai juste une petite entreprise qui fait quelques travaux. N'importe qui dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai juste une petite entreprise qui fait des travaux. Ils appellent ça la modestie. Mais tu es en train de décréter? La Bible nous dit, c'est ça la sagesse, que celui qui est faible dise, je suis fort. On se dit, ah, Dieu dit de mentir? Oui. La Bible, Dieu nous dit, Seigneur, tu es merveilleux, que celui qui est faible dise, je suis fort. Est-ce que ça veut dire que Dieu dit de mentir? Non. Parce qu'il faut connaître ce que Dieu dit généralement. Dieu dit ceci. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien. Vous n'êtes que des vases de terre. Donc, dans tous les cas, du point de vue de la réalité, vous êtes tous faibles. Mais, vous pouvez tout par moi qui vous fortifie. Là où s'arrête votre capacité, c'est maintenant que moi commence la mienne et en jouant. Ce qui vous est impossible, c'est ce qui m'est banal. Partant de là, personne ne fera rien de grand et de durable par lui-même. Vous êtes tous faibles. Mais tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles, qui savent qu'ils ne sont rien, qui savent qu'ils ne peuvent rien, et qui m'appellent donc au secours, invoquez-moi, je vous répondrai. Ces gens-là, parce qu'ils sont faibles et qu'ils reconnaissent qu'ils sont faibles, je viens leur donner ma force. Cela veut dire que dès que quelqu'un comprend qu'il est faible et qu'il a l'humilité de l'admettre, il est éligible à la capacité de Dieu. Et pour ça, Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un pense qu'il est fort, il croit qu'il peut humainement faire. C'est toujours faux. Parce que rapidement, il a de l'orgueil. Il commence. Et au premier problème, il commence à pleurer. Parce que ça veut dire qu'en regardant les choses, il pense que c'est simple. Telle voie paraît droite à un homme. Son issue, c'est la mort. Regardez bien. La plupart des choses qui nous ont créé des problèmes, nous les avons toujours commencé en ayant l'impression que ça allait très bien se passer. Sinon, personne, qui sait qui va avoir des problèmes et qui va faire ce qui va avoir des problèmes? Personne ne commence quelque chose en sachant qu'il y aura des problèmes dedans. Toutes les choses que vous faites qui vous créent des problèmes sont des choses que vous avez commencé en croyant que la voie était droite, parfaite et menée au bonheur. Mais vous avez à peine commencé que ça devient pour vous la mort, ça devient pour vous le chagrin. Pourquoi? Parce que comptant sur vos petits sens, ce que j'appelle la réalité, vous avez estimé que là, on n'a pas besoin de Dieu, je me débrouille. Dieu vous laisse aller. Quand la réalité se présente, vous découvrez que, je ne peux pas me débrouiller, vous commencez à pleurer. Ça veut dire que celui qui est fort devient faible face à la réalité. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui veut s'élever, on le rabaissera. Mais celui qui se rabaisse au départ en constatant, en sachant qu'il est faible, on l'élèvera. L'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce que celui qui est humble, c'est dès le départ qu'il ne peut rien. Il ne se fatigue même pas. Seigneur, moi là, je ne peux rien. Je ne vais pas me fatiguer. Viens t'en occuper. C'est un départ de faible, mais une fin de victorieux. Parce que dès le départ, Dieu prend le tubeau avec lui. Il vous battra forcément. Mais celui qui croit qu'il est intelligent, qu'il peut, il commencera. Il va monter. Dieu le brisera. La réalité le brisera. Il retombera, il va commencer à pleurer. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui croit qu'il est capable, celui qui est orgueilleux, il sera brisé. Celui qui est humble sera élevé. C'est pas en faisant le petit bébé, le petit idiot, de dire ce qu'on ne pense pas, de faire semblant d'aimer les gens. C'est pas de ça que Dieu parle. L'humilité au sens de Dieu, c'est le fait de reconnaître qu'on n'est rien sans Dieu. Mais que quand Dieu vient, il n'y a pas de problème parce que Dieu lui peut tout. Celui qui a cette humilité-là en partant, sait que c'est quand il est faible qu'il est fort. Parce que Dieu ne s'occupe de vous que quand vous êtes conscient que vous êtes faible. Dieu ne se bat avec personne. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de se noyer, vous voulez le sauver. Tant qu'il n'a pas bien bu de l'eau, qu'il n'est pas presque mort, il s'agit, il essaie de nager, de s'agripper à vous. Si vous-même n'êtes pas très fort, il va vous noyer avec lui. C'est pour ça que les grands maîtres nageurs, quand ils regardent quelqu'un en train de se noyer, ils ont tendance à le laisser boire un peu d'eau pour être incapable de s'agiter avant de le sauver. C'est pareil avec Dieu. Quand vous commencez, si vous vous sentez fort, vous êtes en train de vous agiter, il ne peut pas vous conduire. Il va dire, va à droite, tu vas dire, je vais à gauche, va devant, tu vas dire, vais derrière. Dieu n'a pas le temps à perdre. Il te laisse te casser la tête partout, dans toutes les directions. Quand toi-même, tu as compris que ça ne donne rien, tu dis, Seigneur, comment je vais faire? J'ai tout fait, ça n'a pas marché, tu es où? Il dit, tu veux vraiment savoir où je suis? Maintenant, tais-toi, écoute-moi. Mais si tu veux m'écouter, tu n'écoutes que moi. Voilà, prends ce chemin. Tu dis, mais j'ai déjà passé par là. J'ai dit, prends ce chemin. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Tu t'es agité, j'ai péché 10 fois là toute la nuit. Moi, je dis de jeter le filet. Il a trouvé de poisson, il n'a pas trouvé. C'est ça que celui qui est faible dit, je suis fort. Fort, pas en tant que mensonge, mais il sait pas à la fois que s'il est faible, surtout qu'il le sait, il est obligé de devenir fort par celui qui le fortifie, qui ne manque pas rendez-vous. C'est des phrases qui sont petites, qui n'ont l'air de rien, qui sont même simplistes. Mais vous pouvez penser des années tellement elles sont riches de puissance. Quand vous aurez la révélation de ce que ces petites phrases disent, vous ne pouvez pas vous stresser avec les petits problèmes de tous les jours là. Parce que vous savez que c'est quand il y a le plus de désespoir, quand tout semble perdu, c'est là maintenant même que Dieu a de la matière pour jouer. Parce que Dieu, écoutez, quand quelqu'un est fort, il aime bien démontrer sa force. Si une situation paraît banale, quelqu'un vient la régler, est-ce qu'on va l'applaudir? Tu n'es pas malade, je viens juste mettre, je dis, bon, ok, prends un peu de Nivacine, tu ne seras pas malade. Personne ne va me citer. Mais si tu es malade, je dis, laissez-le. Et tu es presque mort, ta température est montée à 55, ta tension à 60, et tout le monde fait, maintenant tu es fini. Il ne reste que là, le format à te mettre. Ils ont commencé même à pleurer, à appeler les gens au village pour demander d'amener les choses pour la cérémonie. Je viens maintenant, je dis, bon, il est mort? D'accord. Petit, lève-toi, au nom de Jésus. Et tu ouvres les yeux. Ah, yeah, il est terrible, il est trop fort, hein. Le gars était mort, il ne reste que le fort mort, on l'a réveillé. Pourquoi? Plus la situation est désespérée, plus l'intervention glorifie celui qui est intervenu, si ça marche. N'est-ce pas? C'est une règle de l'esprit humain. Cela veut dire que, vous devez savoir que quand Dieu vous bénit, ce n'est pas seulement pour vous. Hein. Il vous bénit pour que vous soyez une source de bénédiction. Dieu, quand il veut vous aider, ce n'est pas toutes les fois. Mais dans sa souveraineté, il y a des fois où, un peu comme Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lazare? Il faut avoir la sagesse de comprendre ce que ça veut dire. On dit Lazare va mourir. Jésus va pour courir à le sauver. Il dit non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas qu'il n'aime pas Lazare. Lazare était l'un de ses meilleurs amis. La pauvre, quand il est parti là-bas, c'est l'une des rares fois où Jésus a pleuré. Il a pleuré sur la mort de Lazare. Il laisse Lazare mourir. Pire, se décomposer pendant 4 jours. C'est-à-dire, là, on sait que c'est la fin des fins et c'est la fin encore à évoluer dans la fin. Il arrive. On dit, oh, tu aurais dû venir pour qu'il ne meure pas. On sait que tu peux l'empêcher de mourir. Et c'est là où Jésus intervient. Et d'ailleurs, Jésus a dit, il n'est pas mort. Cela s'est passé pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dans votre vie, il y a des situations où vous dites, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il n'intervient pas? Il ne voit pas que je souffre. Il voit que tu souffres. Il faut que tu souffres un peu. Pour que tout le monde voit que tu es normalement fini et que toi-même tu vois que tu es humainement fini. Quand toi-même tu auras compris que tout est normalement fini, quand Dieu interviendra, tu sauras que c'est anormal, que c'est surnaturel. Mais dans notre esprit ingrat là, C'est au moins le problème. Dieu réagissait avant qu'on ait souffert. Écoutez, il attend que ça se gâte. Il intervient, on trouve le culot de ne pas avoir la foi. Imaginez s'il ne nous permettait même pas de sentir de quoi il nous tire. Qui allait avoir la foi? Quand les gens prennent leur voiture, ils veulent voyager. Il fait Cotonou, là, Titingo, aucun accident, il arrive, c'est à peine qu'il dit merci Dieu. Mais si Dieu permet que sur le chemin, sa voiture fasse un tonneau, rentre dans la boue, soit complètement aplati, tout le monde meurt dedans, tous les œufs sont cassés, tous les poulets de la voiture sont tous écrabouillés. Et il sort, il n'a pas une égratignure. On le voit tranquillement assis sous un arbre. On dit, mais comment il a sorti la voiture? Dieu est fort, tout ça. Non, il a fallu que Dieu le fasse passer par un rouleau compresseur pour que les gens disent que Dieu est fort. Regardez bien. Même dans les païens, là, dans les feux, là, quand quelqu'un fait un accident terrible, on se dit, il y en a un. Les gens font comme ça, prêts à pleurer. Tu sors indemne. On dit, c'est la première question qu'on va te poser. N'est-ce pas? Vous devez comprendre par là que l'ampleur, la puissance, l'effroi de vos épreuves est toujours proportionnel à la gloire qu'elle donne à Dieu. Et vous devez, si vous prétendez que Jésus est votre Seigneur, Seigneur, ça veut dire que c'est votre maître, vous êtes son esclave. La vie d'un esclave a un seul objectif, servir le maître. Un esclave ne vit pas pour se faire plaisir, pour être content, pour être heureux. Il vit pour servir le maître. Dieu merci, notre maître est bon et miséricordieux. Il ne veut pas que nous souffrions. Mais il ne faut pas oublier que quand on dit « Nous sommes tes esclaves », nous sommes tes sujets. Celui qui s'est fait chicoter comme ça pour t'acheter, ah, quand même, tu lui dois des choses. Il s'est fait tuer pour t'acheter. Et t'a acheté pour l'éternité. Quand même, souffrir un peu pour qu'on puisse l'applaudir. En attendant qu'il te règle le problème, est-ce que c'est trop demandé? Quand on ne comprend pas ça, vraiment, où est Dieu? Moi, je vais à l'église tous les jours, je prie beaucoup, rien ne va, vraiment, moi, je suis fatigué, cette église, on a qu'à se tomber. C'est manque de sagesse, manque de connaissance de Dieu. Ils ne savent pas que ça là même. C'est comme on dit, il y a des fois, moi, je dis à des gens, oh, laissez tomber, je connais Dieu, ça lui ressemble. Quand vous allez lire la parole de Dieu, à un moment, vous êtes capable de dire, ça là, ça ressemble à Dieu. C'est cette manière de faire ça. Si par exemple, quelqu'un me dit, hé, hey, j'ai commencé à prier, puis j'ai plein de problèmes. Celui qui ne connaît pas Dieu dit, ah bon, mais comment ça? Comment tu fais tes prières? Tu ne pries pas assez. Il faut jeûner du matin au soir. Bon, ok, on va essayer. Il faut te mettre nu maintenant à 2h du matin, prier tout nu. Il faut attendre la pleine et puis commencer à inventer les choses. Mais quand vous connaissez Dieu, tu diras, oh, laisse tomber, ça c'est habituel. C'est comme ça que Dieu travaille. On t'a pas dit? T'as dit comment? Oui, c'est comme ça que Dieu travaille. Quand on commence à le prier pour quelque chose, c'est comme ça parfois qu'il commence à frapper. Tu as dit comment? Oui, moi je connais Dieu, c'est comme ça il fait. Et c'est vrai que c'est comme ça il fait. Pourquoi il fait comme ça? Regardez en Égypte. Quand les Égyptiens ont commencé à crier au secours, Dieu envoie Moïse pour les délivrer. La Bible est claire. Quand Moïse est arrivé là, c'est maintenant que leurs problèmes ont commencé encore. Pharaon a multiplié leur fardeau, leur souffrance, leur châtiment. Vous n'avez pas vu? Ça correspond à plusieurs choses. D'abord, quand Dieu veut vous sortir d'une situation, l'esprit humain est ingrat. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Vous n'êtes pas capable de vous asseoir et d'écrire sur un papier tous les problèmes dont Dieu vous a sorti ce mois-ci. Regardez bien. Quand Dieu règle un problème, on oublie le problème en même temps. Pour se rappeler des problèmes qui restent. C'est-à-dire, on a une désinvolture terrible à oublier de quoi Dieu nous tire. Moi, y compris, hein? C'est pas vous seulement, on est pareil. Et nous l'oublions tellement vite que nous oublions tout aussi vite la leçon qu'il y a dedans. La preuve. Regardez ces gars-là. 400 ans dans l'Égypte. Regardez le nombre de fois que dans le désert, ils ont continué à dire qu'on aurait dû les laisser en Égypte. D'accord? Après tout ce qu'on nous a décrit qu'ils ont subi et vu là, ils ont trouvé le moyen de dire qu'ils auraient dû rester en Égypte. Et si l'Égypte n'avait pas été si dure, faut croire que quelqu'un aurait pu les empêcher de courir pour tourner vraiment en Égypte. Si Dieu avait permis qu'on ne les tabasse pas, qu'on ne les fasse pas souffrir un peu, ils étaient vraiment très bien traités. Moïse dit, bon, viens, on va aller dans le désert. Vous croyez qu'ils n'allaient pas tuer Moïse depuis longtemps pour tourner même en Égypte? Ils n'ont pas eu le courage de retourner en Égypte, bien qu'ils se sont demandé si ce n'était pas pertinent. Parce qu'après tout, Dieu a permis qu'ils aient certains souvenirs de l'Égypte qui les empêchent de le faire. Moi, je connais des gens. Si tu es, par exemple, dans un mauvais couple, Dieu t'en fait sortir sans que tu ne vois à quel point ton conjoint, ta femme ou ton mari est mauvais. Tu vas, quelques temps après, tu vas te sentir un peu seul. Tu ne vois pas quelqu'un de bon. On va te dire, après tout, tous les hommes sont pareils. Hein? Après tout, toutes les femmes sont pareilles. Tu reviendras en arrière. Je connais plein de gens comme ça. On fait une rupture, on fait 2 pas en avant, 4 pas derrière. 3 pas en avant, 1 pas derrière. Ils sont en train de faire comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui passent leur vie à rentrer dans un couple, à en ressortir. On les voit copains à vie, fiancés à vie. Ah, mais leur corporel. Après tout ce qu'il a dit sur le gars là, bon, ce n'est pas qu'il ne faut pas pardonner. Mais il y a des fois, tu sens bien qu'à un moment, les gens sont dépassés. Dieu les sort d'un problème. Aux premières épreuves, ils retournent dans le problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment souffert du problème pour réaliser que Dieu a raison de les en sortir. Quand un enfant veut toucher de l'eau chaude, tu lui enlèves tout le temps la main. Quand tu ne sauras pas aller, il va mettre la main dans l'huile chaude. Il faut de temps en temps laisser l'huile, l'eau, sans être bouillante, quand même un peu chaud, qui met la main dedans. Quelqu'un va dire, aïe, une fois, tu n'as plus besoin d'être là pour qu'il ne mette pas la main dans l'huile chaude. Donc Dieu doit laisser l'enfant que nous sommes mettre de temps en temps un peu la main dans l'eau chaude. Sinon, on va finir par mettre la main dans l'huile bouillante qu'elle ne sera pas là. Donc, pour nous éviter de revenir au mauvais, parce qu'on n'a pas vu à quel point c'est pire, Dieu permet parfois, il nous lève un peu le coin de voile sur ce dont il nous tire, pour s'assurer que cela va nous convaincre de ne pas y revenir. Première chose, qui peut expliquer pourquoi, à mesure qu'on commence à prier pour un problème, on peut avoir encore plus de problèmes. Parce qu'on va dire, mais c'est pas logique, je prie Dieu pour je vais avoir de problème. Oui, tu pries Dieu, c'est maintenant que le problème commence. Première explication de cela. Deuxième explication de cela. Quand tu appelles Dieu, Dieu va travailler dans ta vie. Dieu dit qu'on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Dieu ne peut pas bénir la vie de quelqu'un en le laissant vivre comme il vivait avec le diable. Dieu ne construit pas, on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Dieu ne tisse pas ses cordes sur les cordes que Satan a tissées dans votre vie. Hein. Ça ne marche pas avec Dieu. Quand Dieu arrive quelque part, il écrase tout ce que Satan. Il dit, en Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tes habitudes là, il va les casser. Tes mauvais caractères, tes penchants, tes fantasmes, tes tendances, tes obsessions, tes idoles, c'est-à-dire tous ceux auxquels tu croyais des gens, leur idole, c'est la politique. Si seulement j'étais député, tous mes problèmes vont être réglés. C'est-à-dire que pour eux, ce qui va régler tous ces problèmes, c'est la politique. La politique est son idole. Il y a des gens qui disent, si seulement j'étais riche, pour eux, donc leur Dieu, s'ils pouvaient choisir leur Dieu, c'est l'argent. Il y a des gens qui disent, si seulement je suis marié à un homme riche, tous mes problèmes sont réglés. Donc le mari riche qu'on attend, c'est le Dieu qu'on attend. Et chacun de nous a des fantasmes comme ça. Il y a des gens pour lesquels c'est la stratégie. Quand vous avez un certain niveau, vous pensez que vous pouvez tout, une bonne stratégie, une bonne tactique, une bonne intelligence, c'est tout le problème. Votre idole, c'est l'intelligence. L'intelligence humaine, c'est un grand piège de Satan. Ça pousse à l'orgueil parce qu'on croit qu'on peut faire des choses. La plus grande bêtise de l'homme, c'est de croire qu'il peut faire des choses par son cerveau, il ne peut rien faire. Donc, quand Dieu rentre en jeu, il casse. Écoutez, si vous, je veux faire une grande voie quelque part, je veux développer un caractère comme Vossa, en faire un caractère comme Quartier Jacques ou comme Révive, première chose que je fais quand j'arrive, on dit, ah, monsieur le président, venez nous sauver. Oui, je viens te sauver. Qu'est-ce que je fais? On commence à casser la maison du quartier. D'ailleurs, trouvez-vous un autre toit, on va arracher les toits, on va fermer vos boutiques. Pendant quelques années, un ou deux ans, vous allez tous pleurer. Vous ne vendrez plus rien, vous n'allez plus avoir vos maisons. Mais c'est le prix à payer pour qu'on casse tout, qu'on fasse de nouvelles fondations et qu'on rebâtisse une nouvelle ville. N'est-ce pas? On ne peut pas appeler quelqu'un pour transformer Vossa en Paris sans que des gens ne pleurent à Vossa. Ou bien, quand Dieu vient, vous voulez qu'il transforme votre Vossa en petit Paris. Pourquoi vous êtes surpris? Seigneur, viens transformer ma vie qui est un pire que Vossa en Paris. Il dit, tu es sûr? Oui, je confesse que tu es mon sauveur. Viens. Il dit, parfait. Allons-y. Ça là, cassez-moi ça. Ah, franchement, Dieu m'a fait perdre mon boulot alors que j'ai travaillé dur pour avoir ce boulot. Tu m'as demandé de transformer ta vie en petit Paris. Je casse le premier bâtiment, tu pleures. Parfait. Sa femme là, bougez là. Ah, franchement, toi là, chrétien, c'est à Jésus que toi tu as tout le problème. Continue. Cette église où tu vas là, et c'est dans l'église que toi tu as tout le problème. Tu es rentré après l'église, tu as perdu ton boulot, tu as perdu ta femme. Il faut continuer là-bas. Il est là subitement, son papa meurt. Beau. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne voyez pas ce que Dieu a vu? Dieu sait qu'il est dans une entreprise où ses patrons font de la prostitution, par exemple. C'est des proxénètes. Ils font de le tabac pour tuer les gens. Ils ont des bars, ils ont des buvettes. Ils accumulent tous les jours les malédictions parce qu'ils travaillent dans une industrie de la mort. S'il reste dans l'industrie de la mort, il est éligible à la mort. Dieu ne peut pas le sauver. Donc, première action de Dieu, c'est le sauter de cette industrie. Parce que Dieu a moins de chute pour lui. On le saute de là, les hommes pleurent. Son papa meurt. Son papa est peut-être un grand féticheur. Quand il a moins de problèmes, papa va, ok, je m'en occupe. Il va voir un féticheur, on enterre des choses. Dieu dit, maintenant, ce petit-là, je vais m'en occuper. Le vieux, lui, il est perdu, mais le petit, je vais m'en occuper. Bon, coupez-moi ce papa-là, parce que j'ai envie de me concentrer sur le petit. C'est comme ça. Sa femme-là, c'est une grande prêtresse de Mamie Wata. Pour avoir l'argent, elle est prête à tout. On amène du sel, de l'eau, de je ne sais trop quoi, du miel, des cocos, on met sous son lit pour bien baptiser le gars. Fait que quand il a 10 millions, il dépose 9 millions, 5 millions à la maison, il sort pour se débrouiller avec le reste. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un quand les 9 dixièmes de son argent vont dans les temples de Mamie Wata à travers sa femme. Dieu va dire, tu veux que je m'en occupe? Parfait, bougez-moi ça. Et les gens commencent à crier. Mais Dieu est en train de nettoyer le quartier. Puisqu'il a son plan. Depuis que tu étais dans ton Vossa, ça ne le dérangeait pas. Tu dis, Monsieur le Seigneur, venez transformer mon Vossa en Paris. Il va bien dire, tu es sûr. Il faut le dire en public, il faut confesser. Quand tu as fini de dire ça, tu lui as donné maintenant autorisation. Il va nettoyer. Il va nettoyer. Il va transformer tes caractères. Je donne souvent cet exemple. Tu veux te marier. Dieu sait que le mari qui t'a donné est là, mais il n'est pas patient. Il aime bien manger, il aime une femme gentille, il aime une femme patiente, il aime une maison propre. Tu n'as rien de tout ça. Tu es une femme acariâtre, impolie, à faire des aides baladées dans mon homme sans succès, tu ne sais pas faire la cuisine, tu es paresseuse, tu es sale. Si tu pries, tu dis je veux mon mari, et que Dieu permet que ce gars-là te découvre, soit il va fuir dès qu'il va te voir, soit il va coucher avec toi 2 ou 3 jours, et puis il va partir en se rendant compte que tu es loin de ce qu'il espère. Ça voudra dire que Dieu t'a amené le mari qui t'a prévu et que ça a été suivi de chagrin. Or, Dieu dit qu'il ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Qu'est-ce qu'il fait? Parfait. La petite laveuse son mari. Ok, je vais devoir le faire. Bon, c'est une paresseuse, je trouve une occasion. Par exemple, elle trouve un copain. Le copain vient dire, toi là, tu es paresseux, tu n'es même pas capable de faire ton lit. Regarde comment elle est. La gifle proprement, elle suit devant toutes les voisines et s'en va. Elle est humiliée, elle est honnie, elle pleure des jours. Ah, peuple bonnier, elle est venue m'humilier devant mes copains, tout ça. Dieu rit. C'est Dieu qui a fait ça. Il a giflé pour te réveiller. Tu vas être tellement humilié devant tes copines que quand tu vas sortir le lendemain, tu ne vas plus faire la maline. Hein. Tu as oublié de te ranger. Il y a des fêtes, des endroits où tu allais où tu ne peux plus aller parce que tu es humilié. Tu vas sortir pour faire la maline. Quand tu as vu ton mari, mais ton copain là, t'as giflé, t'as traîné dans la boue devant tout le monde. Tu es obligé de te cacher. Dieu dit, je vous entraînerai dans le désert pour parler à votre cœur. Tu étais la plus belle, c'est toi qui changes de cheveux toutes les minutes. Tu as 10 copains. Le matin, ton anniversaire avec quelqu'un, l'après-midi, c'est avec quelqu'un d'autre. Le soir, c'est un troisième qui fête ton anniversaire dans un troisième restaurant. Et tu vis comme ça. Quand tu commences à dire Seigneur, Seigneur, il va casser tout ça. C'est pas long, rapide. Quand il va t'humilier 2 fois en pleine VIP à côté de nous, toi, mais tu n'auras plus quoi, c'est la VIP. Il a le problème de VIP d'abord. Tu vas te cacher un peu. Si ce n'est pas fait, tu vas fuir côté de nous parce que tu as pris la honte. Tout ça là, n'est pas le hasard. Hein? C'est Dieu qui a travaillé. Il t'éloigne de ce qui te pourrit et commence à travailler sur toi. En fuyant, tu vas tomber sur une maman quelque part qui est plus patiente, plus que ta maman va te dire certaines choses. Tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à faire des efforts. Donc, Dieu t'entraîne. Oh, de ce qui a pourri ta jusque-là, et commence à te travailler, à t'apprendre des choses, à te formater. Au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, qui a une traversée des ans, te voit pas dire, ah, viens là, Colofia, nous, violette, c'est ton fille, si ce n'est pas Dieu, celle-là ne peut pas changer. Elle dit, ah, si tu la vois aujourd'hui, tu vois Pierrette, aujourd'hui, tu ne vas pas la reconnaître. Ce n'est pas la Pierrette d'avant, là, hein. Parce que Dieu l'a entraîné dans le désert, il a travaillé. Quand elle sort maintenant, ceux qui la connaissent, ils disent, Pierrette, changé. Ouais, il faut que je vois pourquoi. Mais ce n'est pas grave. Dieu sait ce qu'il fait. Ils sont là seulement, Dieu dit maintenant, mari, il est temps, va à tel endroit. Comme par hasard, la rencontre se fait, le mari tombe sur la femme idéale, parce que maintenant, Dieu l'a déjà rendu idéal. Il va rester un gars riche, un gars gentil, un gars qui n'est pas coureur de jupons. On dit, Pierrette, c'est mari, on dit, quoi? Dieu est injuste, hein? La Pierrette prostituée ici, là, c'est elle qui a trouvé un bon mari comme ça pendant que nous sommes ici. On ne sait pas, ce n'est pas la Pierrette prostituée, c'est la Pierrette nouvelle. Dieu l'a transformée, on n'a pas vu que Dieu l'a transformée. Et quand Dieu veut transformer les gens, il les amène dans le désert, là où il n'y a pas de regard. Quand Paul a rencontré Jésus, il est passé trois ans dans le désert d'Arabie. Vous ne savez pas tout ce qui est passé par là-bas. Et qu'il revienne comme il est revenu. Il a reçu beaucoup de révélations. À ce moment-là, on a l'impression que rien n'est bon. On souffre. Dieu nous malaxe. Il nous presse comme du citron. Il nous triture. C'est de l'argile, il remet ça dans de l'eau. Il décide de donner la forme qu'il veut. Vous traversez le désert. Comme on l'a vu, dans le désert, vous allez apprendre à connaître les lois de Dieu. Son mode opérationnel. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Pourquoi il frappe? Qu'est-ce qu'il récompense? Qu'est-ce qu'il encourage? Qu'est-ce qu'il ne tolère pas? Vous sortirez du désert quand vous aurez appris tout ça. Et alors, vous rentrerez dans votre Jéricho. Le monde entier va crier, mais comment c'est possible? Cette personne-là, mais cette personne-là est sortie d'Égypte, vous dormiez. Elle a traversé le désert, vous dormiez. Maintenant, elle est rentrée à Jéricho. Et pendant ce temps, des gens qui la critiquaient, quand elle était en Égypte, pendant qu'ils étaient dans le désert, vont voir qu'elle est sortie d'Égypte, elle a traversé le désert, elle s'est retrouvée encore plus vite qu'à la terre promise. Pourquoi? Parce qu'elle a compris plus rapidement que les leçons que Dieu a voulu lui apprendre quand elle est sortie. C'est autant de raisons pour lesquelles on peut avoir en apparence humaine plus de problèmes parce qu'on est en train de prier. Parce que vous demandez à quelque chose à Dieu. Dieu doit faire la chose si c'est bon pour vous. Mais il ne le fera pas toujours comme vous voulez qu'il le fasse. Et il ne le fera pas n'importe comment pour que vous alliez après en enfer. Il le fera bien proprement à tous égards. Ça prend un certain nombre de cours qu'il faut accepter de prendre. Si vous ne savez pas ces choses, si vous n'avez pas cette sagesse, vous allez prier, vous ne comprendrez jamais comment Dieu réagit. Mais quand vous savez ces choses, même dans l'épreuve, ce n'est pas que vous vous en foutez. Mais vous avez une force extraordinaire parce que vous savez, en griffe, à quoi Dieu est en train de jouer. Vous allez alors apprendre plus vite. Quand vous savez que Dieu est en train de vouloir vous donner une leçon, vous apprenez beaucoup plus vite, pour vite quitter la classe. Parce que vous savez que si vous n'apprenez pas vite, vous allez doubler. Donc vous allez subir les sanctions, les douleurs, les épreuves de la classe longtemps. Si vous savez que Dieu est en train de vous briser pour casser votre orgueil, abandonnez l'orgueil rapidement, vous allez vite sortir des airs. Vous savez que c'est parce que vous êtes impoli que Dieu vous brise. Arrêtez d'impoli. Plus vous comprenez rapidement la leçon que Dieu veut vous enseigner, plus vite vous sortez du désert. Plus lentement vous comprenez la leçon, plus vous passez du temps dans le désert, et hélas, plus certaines personnes risquent de mourir carrément dans le désert. Non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'il ne veut pas laisser Dieu terminer le processus de transformation de leur vie. C'est des petits exemples comme ça. Donc, prier comme les chrétiens le font, c'est bon. Mais quand on ne sait pas ça, là, nous périssons faute de connaissance. Si vous regardez bien, ce qui permet de porter des fruits, ce n'est pas la prière. La prière est importante. La prière est indispensable. La prière est nécessaire. Prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas parce qu'un enfant passe tout son temps à mendier des bienfaits à son papa et à demander des choses que son papa l'aime beaucoup. Elle le bénit beaucoup. Le papa bénit beaucoup son enfant qui est le plus obéissant et qui se comporte comme il aime qu'on se comporte. Si un enfant est obéissant à son papa et ne demande jamais rien à son papa lui donnera plus de choses qu'il en donnera à celui qui n'est pas obéissant et qui passe tout son temps, toutes les minutes à demander quelque chose. La plupart des chrétiens se foutent pas mal de ceux qui peuvent faire plaisir à leur père, mais passent tout leur temps à lui envoyer des chapelets de revendications et de doléances. Il vaut mieux, si on ne peut pas prier et obéir à Dieu, ne pas prier et obéir à Dieu, que de prier et de ne pas obéir à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais vous n'entendez pas ce son de cloche-là. Or, sans ça, vous ne pouvez pas être béni. Ni ici, ni là-bas. Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Oui?
Avec des échates, cette maladie l'a dérangé jusqu'à sa mort. Mais est-ce que Paul n'avait pas la foi?
Oui, mais Paul explique lui-même pourquoi Dieu a fait ça. Paul est un homme de grande foi. Et il dit, un homme de grande prière, mieux un prophète. Et a dit qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour normalement être éligible à la grâce de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Et justement, Paul ne nous raconte pas cette histoire-là pour nous montrer que Dieu est bizarre. Il nous raconte cette histoire pour nous expliquer pourquoi quelqu'un qui a la foi peut ne pas être exaucé. Encore que, attention, quand vous dites foi, foi, là, la foi c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère, d'abord. Et on a vu que ce qu'on espère doit venir de la parole de Dieu. Avoir la foi, c'est s'attendre fermement à ce que Dieu a promis. C'est différent de l'espérance. Paul espère ne pas souffrir. Mais est-ce que Dieu lui avait promis qu'il ne souffrirait pas? Bien au contraire, je crois dans les actes des apôtres, il y a quelque part où Dieu disait à un des autres apôtres là, qu'il dirait à Paul tout ce qu'il aura à souffrir pour lui. Et je vous ai déjà dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée, Paul a semé beaucoup de violence contre les chrétiens. C'est vrai, il s'est repenti. Mais dans le processus de Dieu, hélas, il a fallu qu'ayant persécuté, il soit persécuté. Mais Dieu lui a fait la grâce, parce que c'est une grâce dans le cas d'espèce, sur la terre, après avoir persécuté Dieu, de se faire persécuter pour Dieu. Ce qui efface quelque part au tableau de Dieu, ce qui le condamnait. C'est parce que vous me voyez. Donc, Dieu a annoncé, je ferai savoir à Paul tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Si la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, dans le cas de Paul, que disait Dieu? Dieu disait, tu vas souffrir pour moi. Ton ministère, c'est de souffrir pour moi. La foi aurait été dans le cas d'espèce, non pas de croire qu'il ne va pas souffrir, mais de se préparer à souffrir en sachant que Dieu ne donne à personne un fardeau plus grand qu'il ne peut le porter. La foi ne veut pas dire espérer ce qu'on veut. La foi veut dire être sûr que ce que Dieu a dit qu'il veut va s'accomplir. Si Dieu te dit que tu n'auras pas mal, tu es guéri au nom de Jésus, tu peux t'accrocher à ça. Mais si Dieu te dit tu auras à souffrir pour moi, ce n'est pas la foi que de croire qu'on ne va pas souffrir. La foi, c'est de croire ce que Dieu a dit, quel que soit ce qu'il a dit. Jésus savait qu'il irait à la croix pour nous. La foi ne lui a pas fait dire pendant tout son ministère, bon, il est écrit que j'irai à la croix, mais grâce à Dieu qui m'aime beaucoup, vous verrez, je n'irai pas à la croix. Même quand Pierre vous lui dit, Seigneur, moi ne serai pas vivant, on va t'amener à la croix, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que l'idée même de croire ou d'espérer, même si c'est apparemment bien, le contraire de ce que Dieu a dit, vient de Satan. Vous me suivez? Donc, que Paul ait la foi ne veut pas dire que Paul doit croire qu'il n'aura rien, il doit croire ce que Dieu a dit. Voilà, Dieu dit, je lui ferai savoir ce qu'il doit souffrir pour moi. Premier point. Deuxième point, Paul nous explique bien qu'il a prié plus de 3 fois. C'est une manière de dire, s'il faut prier quand même, il a prié. Mais que Dieu ne l'a pas exaucé. Mais, ce n'est pas que Dieu sait tout. Je vous dis toujours ici, que la réponse de Dieu à une prière n'est pas toujours oui, et n'est pas toujours non. Dieu est comme tout père. Je peux dire oui, mais pas maintenant. Si, comme ça arrive, ma fille se réveille à 8h du matin et dit, papa, je veux du bonbon. Je dis oui, mais au goûter, à 16h. Si à minuit, elle dit elle veut du coca, je dis non, on verra ça demain midi. Donc, je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit oui. Je peux dire oui, mais pas maintenant. Oui, mais si tu es premier en classe. Oui, mais si tu travailles bien. Non, pas maintenant. Non, pas du tout. Oui, après la sieste. C'est la réponse de Dieu. Oui, quand tu seras plus grande. Ma fille à 8 ans m'a demandé, papa, je veux que tu m'achètes une voiture. Je dis, il n'y a pas de problème. Attends d'avoir 18 ans, elle tombe à qui je t'achèterai une voiture. D'accord? Donc, Dieu est pareil. Quand vous le priez, qu'il vous exauce ne veut pas dire qu'il vous enlève votre problème toujours ou qu'il vous donne ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il vous répond. Il répond comme il veut pour vous dire ce qu'il faut. Dans le cas de Paul, il a dit à Paul, « Mon petit, ne t'inquiète pas. Je vois que tu souffres. Je ne veux pas enlever ta souffrance pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais ma grâce te suffit. » C'est comme si quelqu'un est malade. Il a mal. Tu dis, « Je suis désolé. Tu es obligé d'avoir mal parce qu'on t'a opéré. Il y a une couture, elle doit cicatriser. Je ne peux rien faire pour que tu n'aies pas mal. Mais prends ces calmants-là. » Vous prenez les calmants, 2 minutes après, vous n'avez plus mal. C'est quand l'effet des calmants se termine que vous avez un nouveau mal. Et la personne vous donne encore du calmant, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit, je ne vais pas enlever la douleur pour les raisons que je vous ai expliquées. Mais, mon calmant est là, il te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu peut parfois ne pas vous donner ce que vous voulez, mais vous donner quelque chose qui au finish donne à peu près le même résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qui permet en tout cas que vous soyez en joie, que vous soyez en paix, que vous ne soyez pas stressé, que vous puissiez continuer de faire ce qu'il attend de vous. Donc, Paul veut que quelque chose soit réglé. Dieu dit non, mais je m'occupe que ça ne te tue pas. Je m'occupe que ça ne te dépasse pas. Parce qu'il dit, je ne vous donnerai jamais un fardeau qui dépasse ce que vous êtes capable de supporter. Vous ne pouvez pas avoir un problème qui dépasse ce que vous pouvez gérer. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas vous avoir un problème qui vous tue. Quand Dieu vous envoie un problème, c'est qu'il sait où vous allez craquer et il intervient toujours avant que vous ne craquiez. Mais il permet que vous soyez éprouvé pour grandir, pour vous renforcer, pour vous entraîner, pour sortir des muscles. D'accord? Une maman va mettre des seaux d'eau de plus en plus lourds sur la tête de sa fille pour l'entraîner, pour la fortifier. Mais elle ne va pas prendre une petite fille d'un an et puis lui mettre un tonneau sur la tête. Ça, c'est pour la tuer. D'accord? C'est pareil pour Dieu. Il va accepter des fardeaux dans votre vie. C'est clair. Sans fardeau, vous n'apprendrez rien. Sans échec, vous n'apprendrez rien. Sans persécution, vous ne grandirez pas. Un papa et une maman ne peuvent pas décider que leur but dans la vie, c'est de faire en sorte que leur enfant n'ait jamais mal avant de mourir. Quel genre d'enfant et quel genre d'adulte ce sera s'il ne connaît pas la douleur? Il faut qu'il tombe. On apprend plus de choses en tombant qu'en marchant. Il faut qu'il ait mal. S'il mange de mauvaises choses, il faut qu'il ait la diarrhée, qu'il ait mal au ventre pour savoir que ah, la prochaine fois, je ne mangerai pas ça. S'il se comporte mal, il faut qu'il ait mal pour comprendre que ça, c'est pas bon. S'il saute de l'arbre pour jouer, s'il se casse le pied dans le plat pendant un mois, il saura qu'on ne saute pas n'importe comment, qu'il faut rester sage. Tout ce qui vous arrive que vos parents permettent est parfois dans le but de vous faire grandir. Et Dieu qui veut vous faire grandir ne peut pas sous prétexte d'exaucer vos prières régler tous vos problèmes dans votre vie pour que vous viviez comme... À la limite, c'est même plus une vie, ça. Mais il fera toujours en sorte, comme avec Paul, que sa grâce vienne malgré tout compenser les choses et vous suffire. Oui?
Merci.
Oui.
Tout à l'heure, lors de la première question, bon, il y a certains aspects que je n'ai pas bien compris. Dieu, il est souverain. Il accorde sa sagesse à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Mais
si
je voulais...
La personne ne lui demande.
Ok.
Il le donne toujours.
D'accord.
Maintenant, il peut ponctuellement révéler des choses à quelqu'un pour aider la personne sans que la personne l'ait demandé. Mais la sagesse est obtenue par une combinaison de la volonté de Dieu de la donner et de l'humilité de l'homme pour la demander. D'accord. Dieu peut tout seul donner ponctuellement pour vous sauver, mais en règle générale, Dieu est tout le temps prêt à donner, surtout quand vous avez l'humilité de demander.
Merci.
Ça répond à votre question?
Oui.
Vous ne pouvez pas recevoir en demandant si Dieu ne voulait pas donner. Mais comme Dieu veut toujours donner, si vous demandez, vous donnera. Mais en général, on pense qu'on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça qu'il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Oui.
J'ai une question par rapport à l'aspect que Martin soulevait la dernière fois entre sur la trilogie thèse, synthèse, antithèse face à la justice et à l'amour de Dieu. Vous expliquez que on peut parfois dire que du point de vue de la justice ou de l'amour, Dieu a par exemple deux facettes. J'ai déjà lu également dans un livre où cela continuait de mijoter un peu dans ma tête où on dit que la croix est le rendez-vous de la justice et de l'amour de Dieu.
Oui.
En méditant là-dessus, je continue de me demander est-ce que en parlant du Dieu de justice et du Dieu d'amour, on est en train de parler de deux facettes ou de la même? En ce sens que, contrairement à la justice du monde, la justice de Dieu n'a pour finalité que, en fait, le bien et qui n'est rien d'autre que le fruit de l'amour. Est-ce que ce n'est pas plutôt mieux, depuis que j'ai lu ce livre, je me disais, est-ce que la foi n'est pas tout simplement le carrefour de l'amour de Dieu et non de la rencontre d'une justice ou de l'amour de Dieu qui s'échange en réalité, qui n'est ou plutôt tout simplement l'amour de Dieu qui s'est manifesté au monde?
Non, c'est vrai que Dieu a plusieurs facettes.
Quand vous prenez, on a plein de tableaux, de versets là-dessus. Si on commence à vous citer les facettes de Dieu, Dieu est amour, il est justice, il est pardon, il est patience, il est bonté, il est notre avocat, il est notre berger, il est le créateur de toutes choses, je ne sais pas, il est l'éternel Dieu des armées, c'est le Dieu qui nous guérit, c'est le prince de paix. Bref, quand vous prenez chacun des noms et des facettes de Dieu, on peut disserter dessus pendant des années. Cela vous révèle un des traits de caractère de Dieu. Dieu n'est pas, contrairement aux hommes, un dosage de chacun de ses traits, certains en beaucoup, d'autres en peu. Dieu est totalement chacun de ses traits. Donc, Dieu n'est pas un peu de gentillesse, un peu de méchanceté, il est entièrement gentil. Et même quand il frappe, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas gentillesse encore. Donc, c'est effectivement plusieurs facettes, mais qui font Dieu. Donc, la facette justice et la facette amour sont bel et bien différentes. Mais effectivement, en Dieu, ces deux facettes se fusionnent, comme d'ailleurs toutes les dimensions de Dieu, pour faire qui Dieu est. Donc, la croix est effectivement le rendez-vous ou le croisement de la justice de Dieu et de son amour. Mais c'est vrai que, comme on le dit, si on doit résumer Dieu, Dieu est d'abord amour. Dieu est essentiellement amour, il est fondamentalement amour. Donc, c'est vrai que quoi que vous preniez dans la personnalité de Dieu, cela vous rappelle qu'il est un Dieu d'amour. Oui, il y a des questions par là, on va faire circuler le micro.
Je vous remercie d'avoir évoqué des faits qui ont suscité des questionnements à mon niveau, sur lesquels je souhaite avoir certaines précisions. Je me dis que la foi serait un état d'âme. Peut-être la comparions-nous au contentement. Est-ce vrai que la foi est un contentement? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, la foi peut-elle être permanente? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'enorgueillir d'avoir une foi et l'avoir obtenue une fois pour de bon? Est-ce que ce n'est pas face à une situation donnée qu'on peut se dire « j'ai la foi » Est-ce que la foi ne dépend pas aussi des épreuves qu'on a rencontrées? J'allais dire de l'intensité de la souffrance face à laquelle on se trouve. Et puis, avant de finir, je voudrais que, même si ce n'est pas un cas personnel que vous aviez peut-être vécu à nous raconter, mais si vous avez un exemple palpable de la manifestation de la foi, qui ne serait pas peut-être un renoncement à l'effort, je souhaiterais que vous attiriez notre attention là-dessus. Merci.
Alors, je vous conseillerais déjà, en partant, si vous avez de quoi le prendre ou de revenir, nous avons à notre bibliothèque numérique plusieurs enseignements, je crois quand même, de qualité sur la foi. C'est un sujet qui est vaste, on peut en parler en plusieurs heures, et je crois que votre question révèle surtout que vous ne savez pas encore bien ce qu'est la foi. Donc, si vous avez une clé USB ou un disque dur ou un CD, amenez-le à n'importe quel moment et demandez qu'on vous copie gratuitement une série d'enseignements qui répondent à la plupart de vos questions. Si vous préférez lire, vous avez aussi là largement une bonne batterie de livres sur la foi. Mais je vous dirai en bref, la foi n'est pas un état d'esprit, la foi n'est pas un état d'âme. Avoir la foi, c'est croire que Dieu est vivant, croire qu'il a clairement dit qui il est, comment il veut que les choses se passent. C'est croire ce qu'il a dit, ce faisant, non pas de manière théorique dans le genre « je crois que Jésus est Seigneur, je crois, tout le monde peut dire ça », mais le croire dans le sens où on comprend ce que ça veut dire, on réalise ce que ça veut dire, et on en est profondément convaincu au point où on peut donner sa vie parce qu'on le croit. Quand on croit que quelqu'un est Seigneur, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est bon de mourir pour lui. Si je suis l'esclave de quelqu'un, et on me dit là, décidez qu'on te tue, tu dis que sa volonté me soit faite, parce que j'étais ton maître. Mais si tout en disant Jésus est Seigneur, j'ai l'impression que bon, c'est un Dieu parmi tant d'autres, c'est un maître comme certains l'appellent naïvement parmi tant d'autres, je peux commencer à dire, oui, mais est-ce que je suis obligé d'accepter de mourir pour lui, et si je refusais? Ce qui révèle déjà que tu ne sais pas qu'en fait, il n'a même pas besoin de ton avis pour que tu meurs pour lui. Il aurait pu te tuer même sans demander ton avis. Bref, avoir la foi, c'est connaître d'abord, parce qu'on ne le dit pas assez, c'est connaître ce que Dieu est, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit qu'il fera. C'est le croire. C'est le croire et c'est l'espérer. On dit la foi, c'est la ferme assurance. C'est ferme. C'est de l'assurance, c'est de l'espérance que Dieu est qui il a dit, que Dieu va faire ce qu'il a dit.
c'est la démonstration. C'est là où ce n'est pas du tout un état d'âme, c'est très pragmatique. C'est la démonstration à tout point de vue de ça. Je donne un exemple. Si j'atteins un enfant en vain et que je ne l'ai pas, quand je suis convaincu que Dieu m'a promis un enfant, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que dès que vous claquez des doigts, si vous avez la foi, Dieu va vous le donner. C'est pour ça qu'on nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La différence entre la simple espérance humaine et la foi, c'est que la foi est une assurance à mort de ce qu'on est sûr que Dieu a dit. Je donne un exemple, ça fait 10 ans que tu es stérile, et lors d'un rêve, ou dans une vision, ou dans n'importe quoi, Dieu te dit, ma fille, ce mois-ci, tu vas être enceinte. Si tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a dit, la démonstration de ça, c'est que tu dis à ton mari, chérie, c'est réglé, je suis enceinte. Tu dis à ta belle famille, à tes parents, c'est réglé, je suis enceinte. Si tu veux te rassurer, tu dis au nom de Jésus. Tu commences à faire ton trousseau. Tu fais tout ce que quelqu'un qui vient d'avoir une grossesse ferait. Prenant effectivement le risque, tu me diras, et si finalement ce n'était pas vrai? Si finalement ce n'était pas vrai, tu pourrais faire une chose qu'aucun homme n'a pu faire, dire à Dieu, je viens d'avoir la preuve que tu es menteur. Parce que tu m'as dit cela, il est dit que tu fais tout ce que tu dis, eh bien, je viens d'avoir la preuve que tu arrives d'être menteur. Et moi, je vais vous dire, sans rentrer dans les témoignages de la foi, vous les aurez sur les enregistrements, l'une des choses que je fais souvent, c'est que quand Dieu me promet quelque chose et que je suis sûr, j'insiste là-dessus, il faudrait encore être sûr que c'est lui qui l'a dit. Évidemment, tout ce qui est écrit, il n'y a pas de doute, c'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, quand Dieu vous donne un réma personnel, il faut être sûr que vous avez bien reçu une parole de Dieu. Quand Dieu me dit quelque chose que j'ai du mal à croire, parce que vous avez raison, la foi, personne ne peut dire, j'ai la foi et c'est fini. C'est comme personne ne peut dire, je suis intelligent. Vous êtes intelligent, vous réglez des problèmes, mais un problème arrive et vous bloque. Jusqu'à ce que vous trouviez la solution. Et là, en trouvant la solution, vous vous démontrez à vous-même que vous avez effectivement le niveau de foi ou d'intelligence qu'il faut. Donc, la foi est un combat de tous les jours. C'est un processus dans lequel on doit être tout le temps. Mais personne ne peut, avant d'être mort, décréter qu'il a vaincu complètement le combat de la foi. C'est d'ailleurs pour ça que Paul dit, je cours la course, oubliant ce qui est derrière, ne regardant que ce qui est devant. Parce que c'est une tendance à vie. Chaque épreuve, comme à l'école, venant éprouver votre foi. Non pas pour la vaincre, mais pour la consolider. Quand vous êtes au CI, on vous fait des épreuves de calcul. Au début, c'est difficile. Mais dès que ça devient facile pour vous au CI, on vous envoie au CP. Au début, c'est difficile. Dès que le CP vous devient facile, on vous envoie au CE1. Le CE1 sera au début difficile, mais à la fin d'année sera facile. Mais dès que c'est facile, on vous envoie au CE2. C'est pareil dans la vie. Dieu envoie des petites épreuves. Au début, vous n'avez pas la foi. Il vous aide à avoir la foi, à la surmonter. Il sait que ça maintenant, la prochaine fois, les yeux fermés, vous croirez sans avoir peur. Vous l'avez déjà vu en action. Il vous passe au niveau supérieur, un peu plus dur. Donc, plus vous grandissez dans la foi, plus Dieu aussi grandit dans les épreuves de votre foi. Et quand il advient à dire à Abraham, prends ton fils unique que je t'ai donné, va l'égorger. Regardez bien l'histoire. Il a passé Abraham par plein d'épreuves, beaucoup plus petites que celles-là. Certaines qu'il a emportées, d'autres qu'il n'a pas emportées. Mais la somme de tous ces processus d'échec et de victoire d'Abraham dans la foi a fini par faire d'Abraham quelqu'un qui a atteint un niveau de foi que Dieu lui-même voulait tester en disant, tue ton fils. Et là, Abraham a réussi le test. Dieu a fait de lui le père de la foi. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est un processus dans lequel on doit demeurer tout le temps. Et je dirais pour terminer que avoir la foi, par définition, et vous le comprendrez mieux aussi sur les enregistrements, c'est renoncer à la réflexion. Ça paraît paradoxal, mais vous verrez que le péché d'Adam et Ève, la Bible nous dit que c'est le péché d'avoir mangé du fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit que quand ils ont mangé ce fruit, leurs intelligences se sont ouvertes et qu'ils se sont venus. C'est-à-dire que, contrairement à ce que nous pensons, l'intelligence, la sagesse du monde, qui consiste à monter des raisonnements, des théories, des stratégies, est un mépris pour Dieu. Quand je dis à mon enfant, on ne touche pas ça, un enfant obéissant ne touche pas. Il dira, papa a dit qu'on ne touche pas. Ça, c'est un enfant obéissant. Mais l'enfant commence à dire, mais papa a dit ne pas toucher. Si on touche, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, c'est vrai, hein? On va prendre un tournevis pour voir, non? Ou bien on va prendre le bâton. Dès qu'un enfant commence à réfléchir, à savoir si papa a eu raison ou si il n'y a pas mieux à faire, il est déjà désobéissant. Et c'est pareil pour nous les hommes. Adam, on lui a dit, tu ne manges pas. Point final. Il n'avait même pas discuté avec Satan pour voir si ça doit se manger ou pas. Même s'il n'avait pas mangé, de faire le débat avec Satan, de voir s'il faut manger ou pas, est déjà un péché. Ça veut déjà dire qu'il met en doute ce que Dieu a dit. Quand je parle à mes enfants, quand tu parles à tes enfants, tu t'attends de qu'ils obéissent, pas qu'ils réfléchissent pour voir s'ils ont raison ou si tu as raison. Parce qu'en tout état de cause, à ce que ce petit-là sait, il ne peut jamais réfléchir efficacement pour analyser ce que tu as dit. Il n'en sait pas assez pour se permettre de réfléchir à ce que toi, son père, a dit. Mais vous croyez que nous en savons assez pour réfléchir à ce que Dieu dit? Quand Dieu dit, il suffit de faire ça pour régler tel problème, mais comment? Moi, j'ai l'attention, c'est la vie, et puis Dieu me dit que oui, que je peux guérir de mes maladies. Qui vous êtes, qui les docteurs sont pour réfléchir à comment guérir une maladie? Le docteur n'a jamais fabriqué un corps. Il n'a jamais fabriqué de cœur. Pourquoi veut-il me dire comment le cœur fonctionne quand mon Dieu qui met le cœur en moi, qui l'arrête quand il veut, quand le fait le démarrer quand il veut, me dit que je peux guérir mon cœur? Dès qu'on n'est pas capable d'avoir quasiment la bêtise du point de vue du monde, c'est pour ça que Dieu dit que la foi est folie pour le monde. Quand vous êtes un homme de foi, les gens du monde vous trouveront toujours bête. Et vous les trouverez tout aussi bêtes. Parce que la foi est forcément folie pour les hommes. La foi, c'est de dire, Dieu m'a fabriqué, c'est lui qui fabrique les cœurs, jusqu'à preuve du contraire, allez vous faire foutre avec vos bêtises. Si vos bêtises contredisent ce que le fabricant dit, je ne veux pas vous écouter. Dans tous les cas, vous ne pouvez qu'être celui qui a tort. Donc, la foi, ce n'est pas le fait de réfléchir et dans chaque circonstance de chercher l'argument. Pourquoi? Si vous voulez réfléchir aux choses et après y avoir réfléchi, décider de croire, vous ne croirez jamais. Le secret de la foi, c'est de refuser de réfléchir à ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, coupe-toi la main, et tu es sûr, j'insiste toujours là-dessus, ce n'est pas parce qu'il a dit, oui, si ta main droite t'empêche d'aller au paradis, coupe-la, on va venir te dire, bon, je te cite tel proverbe, tel verset, Dieu a dit, coupe ta main, tu coupes ta main. Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit que toi, Pierre, là, il veut maintenant que tu coupes ta main? Non, ce n'est pas ça. Mais si tu es sûr, et quand Dieu nous parle, quand on atteint un certain niveau spirituel, il nous aide à savoir que c'est lui qui a vraiment parlé. Si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit, coupe ta main, tu ne veux même pas réfléchir à, mais si je coupe la main, je vais écrire comment? Ce n'est pas la question. Si Dieu a dit, coupe ta main, tu coupes ta main. En te disant que Dieu t'aime trop pour te demander de faire quelque chose qui n'est pas, après toute analyse faite, le mieux qui puisse arriver. Aucun père, même mauvais comme nous sommes, nous les hommes, ne peut jamais demander à son enfant de faire quelque chose qui est mauvais pour lui. Le père peut se tromper, croire que quelque chose est bon pour son enfant et finalement l'enfant va échouer. Mais aucun père, en tout cas il y en a très peu, ne demande à son enfant de faire quelque chose qui serve à lui nuire. Parce que nous sommes des hommes imparfaits. Mais Dieu qui est parfait, d'un amour parfait, qui sait toutes choses, comment pourrait-il avoir le culot et la méchanceté de demander à des hommes qui sont ses enfants chéris, pour lesquels il a accepté, n'oublie pas, de passer à la croix, quand même il faut le faire, de faire quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Cela veut dire, et on le démontre ici, vous le verrez sur l'enregistrement, que la plupart des choses que nous trouvons bizarres, nous ne les trouvons bizarres que parce que nous sommes ignorants. Comme je viens de dire, quelqu'un commence à prier Dieu, sa vie devient une catastrophe, on dit voilà, comment on peut croire en ce Dieu? Mais si on savait ce que Dieu est en train de faire, on devrait croire encore plus en ce Dieu, parce que justement, c'est en train de se gâter. C'est à la preuve que le chantier a commencé. Si on vous dit, comme on nous dit souvent dans notre pays, on va faire telle route, pendant 2 ans, on n'a rien cassé, vous savez que le budget n'est pas bouclé, qu'on a fait de la politique et de la propagande. Dieu ne fait pas de la propagande. Si vous dites, Dieu prend en charge ma vie, vous devez voir qu'il a commencé le chantier, que le budget est bouclé. Si vous ne le voyez pas, c'est que Dieu n'a pas commencé à travailler. Bref, je pense que je vous conseille de réécouter ces enseignements qu'on a donnés sur la foi. Cela va certainement vous passer à un autre niveau, après lequel vous allez certainement avoir d'autres questions auxquelles nous pourrons répondre avec plus de précision parce que vous serez déjà dans le bain. D'accord? Il y a aussi des livres là qui pourraient vous aider. Mais c'est une question importante. Je vous suggère de prendre le temps qu'il faut pour la maîtriser parce que c'est une question de quelqu'un qui est sur le très bon chemin et qui arrive au carrefour tout ce jour. Si vous perdez le combat de la foi, ce n'est même pas la peine d'être chrétien, vous perdez votre temps. Parce que l'Église est pleine de chrétiens qui n'ont jamais gagné le combat de la foi. Or, sans le combat de la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est tout ce qui a tué les gars, hein, la génération qui est morte dans le désert. Ils ont perdu le combat de la foi. Si vous perdez le combat de la foi, autant même quitter l'Église parce que vous ne pouvez rien tirer de l'Église. Mais quand vous gagnez le combat de la foi, vous pouvez être en train de dormir dans votre chambre. Dieu fera ce qu'il a à faire. Et donc, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vous fortifie. Vous êtes au carrefour, je crois, le plus important de votre vie. Si le défi de la foi vous fait poser une question, je prie que le Saint-Esprit prenne en charge lui-même vos préoccupations et qu'il vous instruise sur le chemin de la foi et fasse de vous un grand homme de foi au nom de Jésus. Oui.
Bonsoir, Monsieur Edgar Guédigbi.
Bonsoir.
Je tiens à vous féliciter pour le travail que vous abattez avec votre équipe.
Merci.
Au fait, j'ai 2 questions. En cette période de doute, de tempête, selon vous, quels conseils vous pouvez donner à nos chers citoyens pour quand même tenir debout? Tenir debout. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est celle-ci. Quelles sont vos aspirations pour la nation béninoise? Quelles sont vos aspirations pour votre cher pays, le Bénin? Merci.
Bon, je vais répondre à vos deux questions. Si vous avez de quoi enregistrer, enregistrez-le. Je dirais aux Béninois, tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Personne ne peut diriger un pays si Dieu ne le permet. Je n'ai pas dit si Dieu ne le veut. Mais personne ne peut diriger un pays si Dieu ne le permet. Au Togo, des gens qui se prenaient pour immortels ont fait rêver un matin, ils étaient déjà morts. En Éthiopie, des gens ont verrouillé le pouvoir, ne pensaient même plus à leur départ. On fait rêver un soir, on nous a dit qu'ils étaient morts. Des gens qui ont eu le culot de se faire appeler le roi des rois, usurpant à Dieu son titre, sont morts comme des rats. Franchement, les dictateurs supposément éternels, comme Mobutu et d'autres, qui sont partis comme des vulgaires voyous, les Samuel Doré consorts, sont là pour nous rappeler que quand l'heure de Dieu sonne, regardez les images de Simone et consorts il n'y a pas longtemps, quand l'heure de Dieu sonne, on n'a pas besoin d'une opposition, d'un réveil citoyen, d'une mobilisation politique de quelque nature que ce soit pour faire ce que Dieu veut faire. Cela veut dire qu'une fois encore en matière de foi, moi j'ai atteint le niveau spirituel où je ne réfléchis plus, j'obéis. Que dit Dieu? 1. Toute autorité est établie par Dieu. Dieu seul juge, venge et rétribue. Quand, comme Saül, Dieu décide de déchirer la royauté de la terre de quelqu'un, on n'a pas besoin de ses opposants, de ses adversaires pour le tuer. Dieu s'en occupe lui-même, utilisant qu'il veut comme il veut. Dieu me dit de ne jamais combattre une autorité, de ne jamais leur manquer de respect, de leur obéir, parce que c'est ça, sa volonté. Et de prier pour eux, parce que qu'on le veut ou non, le bien du pays et donc le mien dépend de ce qu'ils font. Même quand on est en Égypte, quand on est esclave de quelqu'un, Dieu demande de prier pour lui. Je veux donc demander à tous les Béninois de ne pas chercher à comprendre, même si moi je l'ai compris aujourd'hui, pourquoi Dieu dit ça, de faire ça. D'arrêter de se fatiguer à essayer de faire ce qui n'a jamais marché. Dans la Bible, Dieu nous donne plein de stratégies pour combattre Satan, pour combattre l'ennemi, pour combattre les esprits mauvais. Il n'a jamais donné de stratégie pour affronter un chef. Il dit un chef, on lui obéit. Parce que tout chef a pouvoir de vie et de mort sur vous. Qui que vous soyez, quelle que soit votre fortune, dans tous les pays du monde, un chef d'État qui veut vous briser, vous brisera. Dieu pourra le punir après, mais vous brisera d'abord. Je leur conseille, si il était du point de vue de Dieu, ça ne m'appartient même pas de le juger, que un chef soit vraiment mauvais, qu'il se comporte à son égard comme David s'est comporté à l'égard de Saül. David a fait du bien à Saül. Saül a injustement essayé de le tuer. Chaque fois, David s'est contenté de fuir, de l'éviter, refusant de jamais l'attaquer. Même quand David l'a eu pendant qu'il dormait à portée de main deux fois pour le tuer, David a dit, si Dieu l'a élu, ce n'est pas à moi de le sortir. Quand Dieu voudra, il le finira. Et dans le cas de Saül, Dieu l'a fini. David, même quand l'ennemi est dans ses mains, dit, moi, je ne toucherai pas qui Dieu n'a pas touché. Et ça fait que quand, après, David a été roi, personne n'a pu le toucher. Quand vous ne touchez pas au pouvoir de quelqu'un, on ne pourra jamais toucher au vôtre. Si vous ne respectez pas l'autorité de vos chefs, on ne respectera jamais la vôtre. C'est des lois de la vie. Et dans tous les cas, personne ne peut faire tomber un chef si Dieu ne le permet. Mais en laissant, ils vont se créer des problèmes. Certains vont être brisés. Alors que dans tous les cas, ce qu'ils font ne changera rien à ce que Dieu sait qui va se passer. Ça, c'est pour les gens. Pour les citoyens, je dirais que chaque pays a les dirigeants qu'il mérite. Quand on prend le cas de Saül, quand Saül arrivait au pouvoir, Dieu avait dit aux Juifs, vous êtes sûr que vous voulez un chef? Vous ne voulez pas me laisser diriger le pays? On dit non, on ne veut plus de sacrificateurs, on ne veut plus de comment on appelle ça, de prophètes. On veut maintenant nous-mêmes notre chef. Lisez bien. Dieu dit, il va prendre vos femmes. Il va vous persécuter. Il va lever des impôts. Il vous fera courir derrière ses chars. Il va vous piller. Vous êtes sûr? Il dit, c'est pas grave, donne-nous un chef. C'est écrit dans la Bible. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est écrit. Ce qui se fera, c'est déjà fait. Il a dit, vous êtes sûr? On dit, oui, on veut en finir avec la pauvreté, les problèmes. Nous-mêmes, nous voulons une armée, on veut être fort. Dieu dit, Saül, donne-le-leur. Et Dieu dit à Saül, à Samuel plutôt, en demandant une chef, c'est pas toi, Samuel, qui conteste, c'est moi. Parce que quand le peuple en vient à espérer un chef qui peut être Dieu pour lui, des gens disent, oui, le chef est plus rapide que Dieu. Oui, le chef va régler tout le problème. Dès que le chef ouvre la bouche, c'est bon. Le chef vient nous sauver, vient nous sauver. Quand on prend un chef pour Dieu, Dieu prend un malin plaisir à vous montrer que personne ne peut être Dieu. Ce dont un pays et le Bénin en particulier a besoin, ce n'est pas d'un chef Dieu, c'est d'un Dieu Dieu. Dieu, si on lui confie le pays, en fera ce qu'il voudra avec les hommes qu'il voudra. Et comme David, le plus petit des bergers, qui était le plus insignifiant, a été choisi par Dieu, ce n'est pas ce que les hommes voient et croient logiquement chef que Dieu choisirait forcément. Même le grand Samuel, il a choisi des gens. Dieu dit, mon petit, tu es dans le décor. Toi, là, tu regardes aux apparences. Moi, je regarde au cœur. Si vous deviez laisser Dieu choisir dans ce pays, qui va se dire, mais non, et c'est quoi, ouah. Et il viendra, il va faire exactement ce que vous n'imaginez pas qu'il peut faire. Parce que quand Dieu prend un instrument, ça peut être du papier, ça peut être du coton, il en fait ce qu'il veut. Mais quand les hommes se choisissent un chef, comme Saül, lisez l'histoire de Saül dans un roi et deux rois. Dieu prend un malin plaisir à leur dire, vous voulez roi, non? Prenez et qu'on regarde. Je veux dire par là que chaque fois que notre peuple ou n'importe quel peuple élira un homme en croyant que cet homme-là est le meilleur, le plus fort, la Bible nous dit, malheur à celui qui se confie en un homme. Chaque fois qu'un peuple va choisir de se confier à un homme parce qu'il trouve que c'est trop compliqué de se confier à Dieu, Dieu lui rappellera et accomplira la prophétie. Malheur à ceux qui se confient à un homme, à ceux qui sont là, comme à ceux qui viendront, comme à ceux qui sont partis. Malheur à ceux qui se confient en un homme. Quant aux hommes en question, qui lisent aussi Saül, Dieu n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un pour finir ce qui lui plaît plus. Il y a des chefs qui ont déconné. Dieu les a interpellés, ils sont venus à la raison, ils se sont repentis. Dieu les a restaurés, les a rétablis, les a utilisés. Il ne veut pas la mort d'un pécheur, il veut son repentir. Si un chef, parce que personne ne sait ce que Dieu dit au chef, nous ne sommes pas dans sa position. Nous voyons ce qu'il fait, nous ne savons pas ce qu'il sait. Si le chef pense que ce qu'il fait est la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit lui donne la force de le continuer. Mais si c'est à lui-même que ce n'est pas la volonté de Dieu, mon petit conseil, c'est de se dépêcher pour se repentir, parce que quand Dieu décidera de frapper, je pense que même ses ennemis auront pitié de lui. Mais que personne ne se fatigue à attaquer aucun chef, parce que c'est vain, c'est stérile, c'est inutile. Je voudrais aussi dire que la démocratie est un système, si je dis diabolique, on va dire que j'ai dit diabolique, même si je l'ai déjà dit, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. La démocratie a la prétention que les hommes les plus nombreux sont les meilleurs. La démocratie a la prétention que les hommes se valent, c'est faux. Un enfant de 18 ans ne vaut pas un vieillard de 75 ans, je suis désolé. Un illettré ne vaut pas un intellectuel. Quelqu'un qui n'a jamais vu une ampoule ne vaut pas un docteur en informatique ou en astronomie. La démocratie dit que si nous sommes 10 dans une pièce, ce que 8 personnes veulent est forcément le meilleur. Or, nous savons par la sociologie que les groupes sont toujours bêtes. Un groupe peut se réunir, lapider quelqu'un à mort, on appelle ça venir populaire, personne n'a la conscience chargée. Mais une seule personne ne peut pas tuer quelqu'un et se sentir tranquille. Un groupe est par définition bête. Regardez la loi de Pareto. 80% des choses sont toujours mauvaises, 20% sont l'essentiel. La démocratie instaure le pouvoir du mauvais. Tout groupe aura toujours plus de mauvaises personnes que de bonnes personnes. Dans une classe, il y a 4-5 qui sont brillants, qui sont de grandes personnalités demain. Le reste, c'est des compléments défectifs, beaucoup finiront mendiants. La démocratie dit que le nombre des mendiants, des incompétents, quel qu'il soit, a plus de pouvoir que 2 ou 3 personnes de valeur. Et c'est pour ça que les pays n'auront jamais de grands dirigeants, parce que les grands dirigeants seront toujours minoritaires. Parce que si les grands dirigeants étaient majoritaires, le pays n'aurait que des gens brillants. Un système qui fait que si, écoutez, si on doit faire la démocratie partout, vous n'avez pas le droit, on reproche aux syndicats de ne pas faire démocratie. Il ne peut pas y avoir démocratie totale. La démocratie voudrait que dans votre maison, si vous avez 5 enfants, vous êtes papa et maman, dans votre maison, faites le vote, ça fait 7 personnes. Si vos 5 enfants votent contre une décision, vous ne l'appliquez pas. C'est ça l'approche participative qu'on nous enseigne, avec les futilités que les bailleurs de fonds viennent nous enseigner. Ça n'a pas de sens que de dire que la majorité a raison. Évidemment, la majorité ne pouvant pas avoir raison, va d'échec en échec, recommençant la même chose, en croyant que le système qui l'a conduit là va le conduire ailleurs. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour arrêter d'avoir de mauvais chefs, il faut changer notre manière de les choisir. Et savoir qu'aucun peuple ne choisit ses chefs, un peuple abandonne sa destinée à Dieu qui lui donne le chef qu'il faut. Quand je dis qu'il faut que Dieu choisisse ses chefs, ce n'est pas que Dieu va prendre un pasteur ou un chrétien, Dieu peut même prendre un musulman. Il y a des pays de la sous-région, je ne donnerai pas des noms, où Dieu a choisi de prendre actuellement des musulmans pour donner quelques petites leçons à certains. Comme Dieu a permis que Saül vienne pour donner certaines leçons de discipline à son peuple. Vous devez retenir qu'un pays ne peut aller loin qu'en aimant Dieu, en faisant de Dieu l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas de chanter Dieu à longueur de journée, c'est de croire en Dieu, c'est de craindre Dieu et de faire ce que Dieu dit de faire. Chacun à son niveau. Si je prends la lutte contre la corruption, ça ne sert à rien de croire que des décrets, des gouvernements, des associations, des mouvements, des cellules peuvent lutter contre la corruption. Rien ne peut changer un homme, à part Dieu qui l'a fabriqué. L'homme qui ne craint pas Dieu ne craindra pas le président, ne craindra pas le ministre, ne craindra aucune autorité. Pour que les gens changent de comportement, il faut qu'ils craignent Dieu. Il faut qu'ils connaissent Dieu. Il faut que Dieu soit mis à contribution. C'est des choses que je ne savais pas pendant longtemps. C'est des choses que beaucoup de gens ne savent toujours pas. C'est des choses que je prie pour que Dieu partage à beaucoup de gens. C'est des choses pour lesquelles je suis prêt à payer un prix très élevé pour le partager. Parce que je crois que quand beaucoup de gens connaîtront Dieu, au sens vrai du terme, leur vie changera. Ils porteront des fruits. Si leur vie change et porte des fruits, ils n'auront besoin d'aucun chef pour être béni. Vous croyez que quelqu'un qui connaît Dieu attend de savoir quel genre de président il a dans son pays pour être heureux? Il prospère, il est heureux, il est en paix, parce que son Dieu s'occupe de lui. Et à la limite, c'est les autres qui l'invitent pour les aider. Parce qu'on voit que lui-là, on dirait qu'il n'est pas dans le même pays que nous. Je pense que Dieu nous dit que même si le lionceau venait à manquer de nourriture, ses enfants ne manqueront de rien. Même si tout le monde est en faillite, quand vous êtes en Dieu, vous ne serez pas en faillite. Vous serez la tête et non la queue. Et je crois que par les temps qui courent, le Bénin comme le monde attend urgemment la révélation des vrais enfants de Dieu. Des gens qui, par leur vie, démontrent au quotidien que ça peut être autrement. Non pas parce qu'ils ont une autorité, on n'a pas besoin d'être ministre, président ou maire pour faire des choses. On a juste besoin de craindre Dieu, d'aimer les autres et de vouloir minimalement consacrer sa vie à Dieu. Et donc, je pense que si nous faisons la promotion de Dieu dans notre pays, les individus vont devenir vertueux, heureux. Ils seront bénis directement par Dieu. Ils n'ont pas besoin d'un ministre des Finances pour les bénir. Ils n'ont pas besoin d'un ministre pour les bénir. Ils ont besoin que Dieu les bénisse. C'est Dieu qui bénit. Et dans un pays où Dieu bénit tout le monde ou la majorité, on aura moins besoin de grands présidents. Et les personnes facilitatrices du développement, Dieu saura nous les donner. Parce qu'à ce moment-là, la majorité craindra Dieu et la majorité pourra aider Dieu à avoir des chefs qui le craignent. Ça, c'était en réponse à votre première question. Deuxième question, je crois que vous avez dit, est-ce que j'ai des ambitions pour la nation? Quelles sont mes ambitions pour la nation? C'est une question qui revient souvent. C'est une manière diplomatique de me demander si j'ai envie d'être président de la République ou je ne sais trop quoi. Je vais vous dire une chose que j'ai découvert aussi avec Dieu. Si Dieu ne te confie pas un travail que tu le prends, tu auras de terribles problèmes. Première chose. Deuxième chose, quand Dieu te confie un travail, s'il te fait la grâce de te montrer en quoi ça consiste, il est impossible que tu sois content d'avoir reçu ce travail-là. Tu vas le faire avec zèle comme Paul, par devoir et par crainte de Dieu, mais tu ne peux jamais applaudir pour dire « Merci Seigneur de m'avoir donné ce travail ». Moi, je vous surprendrai, des fois je suis tenté de prier pour dire « En tout cas, ça ne m'intéresse vraiment pas. Seigneur, si tu veux être gentil, bénis-moi, rends-moi très riche, rends-moi puissant. Fais comme tu fais actuellement, j'ai besoin d'être rien, je parle, les gens écoutent, j'influence les cœurs, j'influence les vies, je fais du bien. J'ai un impact sur le pays et sur le monde sans avoir le fardeau d'une quelconque autorité, sans devoir retrouver des gardes-corps à l'entrée, parce que j'ai eu la chance, un peu comme Moïse, je suis passé à la coupe de Pharaon. Je sais ce que c'est. Ce n'est pas une vie. Et donc, franchement, j'ai croisé un ami hier à la piscine où je vais, et un ami de la présidence qui me dit, « Waouh, tu es chanceux, toi, moi, tu as le temps de nager. » J'ai dit, « C'est vrai que j'ai choisi la bonne part, je fais la belle vie, je dors quand je veux, je mange quand je veux, je vais où je veux, je suis content, je bavarde avec les gens, j'ai ma petite vie, je n'ai pas besoin d'aller au salon d'honneur, je n'ai pas besoin d'être des galas, je n'ai pas besoin d'applaudir pour ce que je ne crois pas. Je vis, en tout cas, assez bien. Vous avez raison de m'envier. » Alors, quand vous faites ces deux expériences-là, franchement, ce n'est pas possible que vous priez pour diriger la nation. Que vous priez pour influencer la nation, oui. Et pour être honnête, franchement, je n'attends pas qui que ce soit pour influencer le Bénin. Je l'influence tous les jours, ça je ne le cache pas. Je veux influencer ce pays dans le sens du bien. Je veux révolutionner ce pays comme je l'ai toujours voulu. Je veux que les problèmes soient réglés. Je veux que les gens soient heureux. Je veux que l'échec soit vaincu. Je veux, comme le diraient certains, que la fatalité soit vaincue. Par la bouche, mais par les faits. Qu'on voit que la fatalité est vaincue, parce que Dieu est grand. Et j'ai un contrat avec Dieu, je lui ai demandé, puisqu'il a fait de moi un homme de marketing, de faire de moi son directeur marketing au Bénin. Donc vous voyez, j'ai du boulot énorme. Avant de finir de vendre Jésus au Bénin, franchement, j'en ai pour une vie. Et donc, si je lui demande quelque chose, c'est un peu d'argent pour être heureux, la santé comme toujours, la paix, une famille heureuse, bien vivre, comme le fait, en pouvant aller n'importe où, partout on t'applaudit, partout on te remercie, partout on te vénère. Même tes enfants à l'école sont des dieux. Quand ils disent « Je suis le fils de tel », tout le monde les applaudit. C'est ça la gloire. Là, je suis en train d'acheter un véhicule, les gens m'appellent, mais franchement, dès qu'on voit ton nom, tout change, tout le monde gicle. Un ami, il est venu la dernière fois du Cameroun, il est arrivé, je devais aller le chercher, je n'ai pas été rapidement. Les policiers l'avaient embêté. Donc il m'a appelé, il n'a pas pu me joindre. Quand je l'ai rappelé, après je suis tombé sur les policiers. « Ah, monsieur Gibi, c'est vous ? Non, 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 ne vous inquiétez pas, on l'a laissé partir. » Mais qui ? Quand ils m'ont dit, j'ai vu le gars, je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Ah non, je sais pas. J'étais en train de parler, de leur expliquer qu'il fallait me rendre mon passeport, tout ça. » Et puis j'ai dit comme ça par hasard, bon, et puis après tout, c'est M. Guidibé qui m'a invité. Mais je n'ai pas compris. Dès que j'ai dit ton nom, c'est fini, on dirait qu'ils ont commencé à gicler. Tout. Mais qui tu es au Bénin? Je me dis, tu vois. Okay. Alors, Franchement, quand Dieu vous a donné ça, avec ou sans le concours des hommes, je ne pense pas qu'il soit très malin de prier pour avoir plus. Mais, pour être sincère, je crains d'être obligé à faire plus. Je ne le souhaite pas. Je dirais simplement, si Dieu m'oblige à faire quelque chose, je devrais bien le faire. Mais ce que moi je lui demande, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et comme vous le verrez très bien, je suis un homme quand même heureux. Hein? Et je dirais aux Béninois, vous n'avez pas besoin que le chef soit bon pour être heureux. Vous êtes heureux si vous voulez bien que Dieu s'occupe de vous. Il n'a pas besoin de vous avoir un bon chef pour vous rendre heureux. Arrêtez de maudire le pays, arrêtez de maudire le chef, arrêtez de décréter que le pays va mal, parce que par le pouvoir de la parole, vous créez ce que vous dites. Priez pour les chefs, priez pour vous-même afin d'être de bons citoyens, et demandez à Dieu de s'occuper de vous et du pays, avec ou sans bon chef. Le reste, laissez Dieu régler ses problèmes, il sait les régler mieux que chacun de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui? Merci. D'autres questions? Non? On va prier? Merveilleux Père, excellent Père de gloire, Abba Père, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour cette grâce extraordinaire que tu nous fais. Grâce de te connaître, grâce de connaître la vérité, grâce d'être à la lumière, de pouvoir éclairer. Grâce d'être le sel de ce pays, de ce monde et de pouvoir salir le monde. Grâce de pouvoir apporter des solutions. Oui Seigneur, je te remercie sans limite parce que pour être un chercheur de solutions, je sais qu'il y a plein de voies qui prétendent y conduire, mais j'ai aussi la grâce d'avoir découvert la solution. Merci Seigneur parce que tu m'as prouvé que c'est en toi qui as la paix, c'est en toi qui as la solution, c'est en toi qui as la vie. Merci parce que tu m'as non seulement dit, mais tu me démontres au quotidien que tu es vraiment le seul levier. Merci Seigneur parce que conformément à notre contrat, tu fais de ma vie et que tu continueras de faire de ma vie un témoignage vivant de ta puissance. Donne-moi Seigneur la grâce dans ce pays et dans le monde entier d'avoir la faveur, d'être de ceux par lesquels on verra qui tu es. Oui Seigneur, parce que beaucoup de gens ont la grâce de te connaître pour en parler. Mais hélas, nous ne sommes pas encore nombreux. Et même ceux qui le font ne le font pas encore assez bien. Nous non plus ne le faisons pas encore assez bien de témoigner de ton nom Seigneur. Je voudrais te prier Père Tout-Puissant de faire en sorte que chacun des membres de ce club soit de véritables lumières au nom de Christ Jésus. Que chacun des membres de ce club soit de véritables têtes. Non pas pour écraser, non pas pour brimer, non pas pour maltraiter, mais pour conduire, pour éclairer, pour élever au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des têtes et non pas des queues. Merci Seigneur parce que tu fais en sorte que la pauvreté ne soit plus jamais notre partage au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une foi qui déplace les montagnes. La foi vient de toi Seigneur, donne-la nous et donne-nous de la manifester au nom de Christ Jésus. Il te plaît de nous donner, de découvrir vraiment qui tu es. Il n'est pas possible de t'aimer, il n'est pas possible d'être amoureux de toi. Il n'est donc pas possible de jouir de toi sans te connaître. Je te prie donc pour chacun de ceux qui sont ici, pour chacun des membres de ce club, de faire la grâce de ta révélation. Personne ne peut te rencontrer, pas t'aimer. On peut te côtoyer, on peut venir à l'église, mais personne ne te rencontre sans t'aimer. Qu'il te plaît, Seigneur, de le faire au nom de Christ Jésus, la grâce de te rencontrer. Rencontre le Seigneur, rencontre chacun, révèle-toi à chacun sous le jour dont il a besoin. Donne-nous de ne pas être des chrétiens dimanche. Donne-nous de manifester au quotidien ta royauté. Donne-nous, Seigneur, d'être des ministres de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, d'être des vecteurs de paix. Donne-nous, Seigneur, quand nous sommes quelque part ou quelqu'un malade, d'apporter la guérison au nom de Jésus. Donne-nous d'être quelque part où les gens sont en souci, non pas la paix, d'apporter la paix au nom de Jésus. Donne-nous quand les gens sont pauvres, d'apporter la prospérité au nom de Jésus. Donne-nous quand il y a des handicaps, d'apporter la libération au nom de Jésus. Donne-nous quand il y a le découragement, de rapporter l'espoir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous n'avons rien de tout cela, mais nous savons que tu es tout cela, et nous savons que tu es en nous. Donne à chacun de nous de prendre très au sérieux son ministère. Nous sommes des commandos de Jésus. Oui, Seigneur. Un commando, ça vit des épreuves. Un commando est persécuté. Un commando ne dort pas. Il devra affronter ses peurs. Il devra sauter de l'avion. Oui, mais Seigneur, nous voulons le faire pour toi. Équipe-nous, fortifie-nous, entraîne-nous. Si nous devons faire un camp militaire pour le faire, pour nous y préparer. Oui, comme tu l'as dit, Seigneur, attire-nous dans le désert et parle-nous. Parle-nous, Seigneur, équipe-nous, fortifie-nous. Donne-nous de te connaître, donne-nous de te pratiquer. Fais de nous des tireurs d'élite pour semer ta puissance dans ce monde. Oui, Seigneur, nous tendons vers la fin. Ce monde tend vers sa fin. Tu veux en racheter un maximum. Qu'il te plaise de faire de chacun de nous des ouvriers capables de récolter massivement. Seigneur, protège-nous, éloigne-nous du mal, éloigne-nous de la tentation. Donne, comme tu l'as promis, que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre nous. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans avoir aucun dommage, mais de pouvoir l'écraser au nom de Christ Jésus. Et Seigneur, tous les jours, chaque jour, fais-nous la grâce de ton intimité. Donne-nous la grâce de ta présence dans nos pensées, ta présence dans nos paroles, ta présence dans nos actions. Seigneur, prends le contrôle de notre vie.
Nous voulons t'appartenir. Nous voulons te servir. Nous savons que tu nous as sauvés. Mais donne-nous de le réaliser encore plus. Donne-nous de le manifester. Donne-nous de porter des fruits, Seigneur. Car c'est à nos fruits qu'on reconnaîtra que tu es vraiment Seigneur. Oui, Seigneur, ce club a été créé avec une seule vocation. Celle de démontrer de manière opérationnelle. Parce que beaucoup de gens savent spirituellement que tu es la solution. Mais peu de gens se sont lancés le défi. Fou pour les hommes, mais facile pour toi. De démontrer par les faits, de démontrer par les chiffres, de démontrer par des résultats tangibles et concrets. Qu'en santé, en économie, en travail, en industrie, que dans tous les domaines, Seigneur, partout où tu es, il ne peut pas y avoir d'échec. C'est pour ça, Seigneur, que nous avons eu le culot, sous ta révélation, sur ton instruction, de nous appeler le club Jésus pour Haïtiens. Qu'il te plaise de ne pas nous laisser venir. Tu as dit, Seigneur, qu'il y a des choses que tu feras pour la gloire de toi. Oui, Seigneur, pour la gloire de toi. Que ce club soit béni, Seigneur. Sanctifie-le. Que tout ce qui dans ce club ne relève pas de toi, ne vient pas de toi, soit brisé, neutralisé, arrêté au nom de Christ Jésus. Que tout ce qui devrait y être selon ta volonté qui n'y est pas, soit attiré au nom de Christ Jésus. Que les personnes qui sont destinées à ce ministère, que les personnes que nous sommes destinées à bénir, soient attirées ici et que nous ne manquions pas le rendez-vous avec le Seigneur. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous connaissons nos limites, elles sont totales. Et nous savons, Seigneur, qu'à nos limites, comme en sa capacité. Qu'il te plaît, Seigneur, de manifester ton immense capacité, ton infinie capacité dans notre vie au nom de Christ Jésus. Nous allons maintenant entrer, Seigneur, que cette soirée a été une soirée extraordinaire dans notre vie, que cette soirée a été un tournant dans notre vie. Ce que tu as commencé en nous ici, merci parce que tu le continues. Que tu nous occupes à méditer ta parole, à la comprendre, à la mettre en application. Tu as promis, Seigneur, que ni la mort, ni l'enfer, ni les anges, ni les principautés, ni les dominations, ni rien du tout ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Seigneur, éloigne-nous du péché. Pardonne-nous nos transgressions, conscientes ou inconscientes. Pardonne-nous, Seigneur, ce que nous avons fait contre toi. Nous n'avons pas fait pour toi, consciemment ou inconsciemment. Qu'il te plaise par le sang de l'agneau à la croix de nous pardonner, de nous purifier, de nous laver. De nous rendre dignes, non pas par mérite, mais par grâce, d'être en communion avec toi. Seigneur, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce de nous donner à chacun de nous, à chacun des citoyens de ce pays, le pain quotidien. Donne-nous chaque jour ce qu'il faut. Donne-nous, comme tu l'as promis, tous les jours, toutes les sortes de bénédictions de grâce, de sorte que, quel que soit le besoin, et en tout temps, nous ayons toujours ce qu'il faut, et en plus un supplément pour faire de bonnes œuvres. Que le monde soit en feu, nous serons en paix. Que le monde pleure, nous serons en joie. Que le monde soit nu et perdu, nous serons la lumière à la gloire de ton nom, Seigneur. Que tout cela s'accomplisse vite, que ça s'accomplisse concrètement. Nous savons, Seigneur, que la prophétie marche vers son terme. Elle s'accomplira forcément. Donne-nous la patience de l'attendre. Donne-nous de grandir. Donne-nous de mériter par l'obéissance d'être au rendez-vous de ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu bénis nos familles, tu bénis nos enfants, tu bénis nos conjoints, tu bénis nos parents. Tu bénis nos proches qui ne te connaissent pas encore et tu leur fais la grâce de te rencontrer. Personne ne peut venir à toi si tu ne l'as interpellé. Qu'il te plaît, Seigneur, d'interpeller nos proches qui ne te connaissent pas encore. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis notre aller maintenant. Bénis notre retour à la maison. Veille sur nous. Mieux qu'un garde-corps, protégeons, protège nos maisons. Donne-nous d'être encore en bonne santé, unis de cœur, unis en pensée aussi demain, pour continuer ce séminaire dont tu nous donnes d'être à la deuxième semaine. Merci, Seigneur, sans limite, parce que tu as été là. Nous t'avons invité au début de cette séance, tu as été là. Merveilleusement présent, omnipotent, omnipuissant comme toujours. Tu t'es révélé à nous, tu as prouvé que tu n'étais jamais absent. Pas une seule fois, nous t'avons appelé en vain. Nous n'avons pas de mots assez grands pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour cela. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu as fait qu'on n'a pas vu, et pour tout ce que tu feras encore. Sois béni, au nom de Christ Jésus. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?